Bienvenue pour un nouvel épisode de Parlotte avec Grégotte. Mon invité du jour est Lauriane Lamperin, une athlète de haut niveau, membre de l'équipe de France de tumbling. Donc c'est une discipline associée à la gymnastique, mais exclusivement composée d'acrobaties sur piste. C'est hyper impressionnant, ça demande vraiment des qualités physiques hors normes. Elle est 7 fois championne de France, elle est médaillée par équipe 2 fois, donc bronze, au niveau européen et au niveau mondial, donc elle a vraiment un palmarès énorme. Elle a aussi traversé des périodes difficiles parce qu'elle a eu une blessure, une fracture au niveau des vertèbres qui a failli mettre fin à sa carrière. Et puis on parle aussi de ce que c'est du quotidien d'un sportif de haut niveau. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment une discussion hyper intéressante. Je te laisse la découvrir tout de suite. Allez, c'est parti.
The moment you have been waiting for. It's time!
Parlotte avec Grégotte.
Hello, Lauriane. Comment ça va?
Eh ben, ça va très bien.
Donc là, tu rentres d'où?
De Martinique.
De Martinique, t'es toute bronzée.
Oui.
Il faisait quoi, 30 degrés de plus?
Oui, tout à fait, c'est ça.
Alors, t'étais là-bas pour quoi? Pour un
stage sportif de tumbling.
Ok. Donc, toi, t'as des stages régulièrement, c'est ça, pour ta pratique? T'as ton entraînement habituel en club? Tu fais...
Alors oui, je m'entraîne en fait en club sur Boussy-Saint-Antoine.
Ouais.
Et aussi, je vais souvent en stage à Rennes parce que les conditions matérielles sont beaucoup mieux.
Ok.
Mais ensuite, je fais aussi beaucoup de stages souvent à l'étranger pour vraiment progresser.
D'accord.
Donc...
parce que tu as déjà, pour les gens qui ne connaissent pas, donc, déjà le tumbling, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est?
Alors le tumbling, en fait, c'est un sport acrobatique,
ouais,
qui vient un peu de la gymnastique. En fait, c'est une piste de 25 mètres où on enchaîne 8 acrobaties.
D'accord. C'est une piste qui donne un petit peu de...
Donc en fait, c'est
des ressorts dessus,
rouleaux de fibres de verre,
ouais,
avec dessus une moquette. Donc c'est pas un trampoline.
C'est pas un trampoline.
Mais c'est pas du béton non plus.
D'accord. Ça... T'as un peu plus de rebond que sur un
voilà.
sol classique.
Oui, oui.
Ouais, ok. Et donc, c'est une discipline associée à la gymnastique?
Ouais, elle fait partie de la Fédération de gymnastique. Donc, ça a été aux Jeux Olympiques en 1932 à Los Angeles,
ouais,
mais depuis, ça n'y est plus.
Ok. Et c'est vrai que, alors, en France, moi, je quand j'entends tumbling, je savais à peu près ce que c'était, mais est-ce que c'est quelque chose qui est plus populaire dans d'autres pays ou...
Oui, c'est plus populaire dans d'autres pays. En Russie, c'est très populaire, en
ouais.
Chine... En Angleterre aussi et en Amérique. Mais en France, non, c'est très peu connu. La gymnastique est sur le devant de la scène. Et le tumbling est très peu médiatisé, donc on n'en parle pas. Alors que pourtant, visuellement, quand les gens regardent, ça plaît énormément.
Bah, c'est hyper impressionnant. Moi, j'ai vu tes vidéos. Franchement, déjà, en niveau capacité athlétique, coordination... tu vois, tout le bah ouais, enfin c'est génial quoi. C'est ça demande un contrôle de soi qui est énorme et puis des vraies qualités athlétiques qui sont hyper impressionnantes. Donc vraiment, c'est vrai que c'est pas un truc qui est du tout chiant à regarder quoi.
Oui, souvent c'est waouh, mais ouais. Comment tu fais ça?
Ouais, non, c'est hyper impressionnant.
Ouais.
Et le système de notation, ça se passe comment? Parce que est-ce qu'il y a des figures imposées
Alors non, c'est libre. En fait, on a deux séries. En
ouais.
fait, pour les qualifications, on doit faire deux séries de 8 touches. Bon, pour un niveau national et international.
Mm-hmm.
Donc deux séries de 8 touches, donc ça veut dire de 8 saltos enchaînés.
Ok.
Et donc dans la première série, c'est une série salto. Donc il n'y a pas de vrille, donc de rotation
D'accord.
de plus de 180 degrés.
Ok.
Et alors que pour la deuxième série, il faut minimum deux vrilles. Donc souvent qui se situe au début et une à la fin.
Ok. Donc ça veut dire que ça, d'une personne à l'autre, ça va se ressembler quand même pas mal ou avec ça, t'as une liberté de...
Il y a une liberté, mais après, il faut respecter ces exigences-là. Et souvent, on se retrouve à peu près dans les difficultés proches.
Ok. Et donc toi, si je me rappelle, t'as été 7 fois championne de France.
Oui, 3 fois en individuel et 4 fois en équipe.
Ok, et après au niveau international, c'est en équipe.
Voilà, 2 fois médaille de bronze au championnat d'Europe et 2 fois au championnat du monde.
Et donc t'es en équipe de France.
Voilà.
Athlète de haut niveau.
C'est ça.
Ok, alors bon, on va un peu essayer de voir comment t'as commencé, ton parcours de ça. T'as commencé par la gymnastique, c'est ça?
Alors oui, j'ai fait un petit peu de gymnastique, mais c'était pas un sport qui me correspondait.
Ouais.
Il y avait de la danse, enfin des sauts. Et moi, j'aimais que l'acrobatie. Donc en fait, j'aimais vraiment que le sol, parce qu'il y a plusieurs agrès aussi en gymnastique. Il y a la poutre, la barre, le saut.
Ouais.
Et moi, j'aimais que le sol et que l'acrobatie. Donc du coup, le tumbling, finalement, c'était vraiment ce qui me correspondait.
D'accord, c'est un truc que... Enfin, c'est un truc, c'est une activité, le tumbling, qu'on retrouve dans tous les clubs de gymnastique ou pas ?
Pas tout à fait, parce qu'il y a des contraintes au niveau matériel qui sont très compliquées. Il faut une salle qui fait environ 45 mètres de long, parce qu'il y a 11 mètres de course d'élan, 25 mètres de piste, plus 6 mètres de réception. Donc pour trouver des salles aussi grandes, c'est très très compliqué. C'est aussi pour ça, je pense, que le tumbling est peu développé en France.
Ouais, ça demande beaucoup de place alors,
Voilà, donc souvent on va avoir des petits bouts de piste où on peut s'entraîner dessus, mais pour faire vraiment du tumbling, c'est compliqué. En France, des belles salles... Il n'y en a pas 36.
Et alors, tu as commencé à quel âge le tumbling ?
J'ai commencé à l'âge de 12 ans.
Ok. Et ça se passe comment ? Parce que, bon, moi, je suis très mauvais en acrobatie. Mais j'aime ça, mais je suis très mauvais. J'ai pris un peu des cours d'acrobatie, tout ça. Donc, j'en suis à un niveau débutant. Mais c'est vrai que je me dis, comment... c'est quoi le parcours ? C'est-à-dire, comment tu apprends à quelqu'un par quoi tu commences ? Tu vois, pour arriver à ça.
Faire déjà un salto avant, un équilibre, ensuite une roue.
Mm-hmm.
Et petit à petit, on va faire une rondade. Donc, c'est une roue arrivée sur les deux pieds en même temps. Et puis après, on va rajouter un élément en arrière. Donc, un flip souvent. Et après, deux éléments, trois éléments. Après, on va apprendre les grosses acrobaties qu'on va mettre à la fin des sept éléments.
Ok.
Et,
parce que les vrilles, par exemple, ça me paraît... Comment tu arrives à imprimer ce mouvement-là, passer de...
Il faut répéter énormément, parce qu'au début, on ne sait absolument pas où on est. Quand on fait la première fois l'élément, on est perdu. Donc, on fait confiance à notre corps, on va dire. Et en fait, on apprend petit à petit en fait, à tourner. Donc, au début, ça va être que de quelques degrés. Mmh. Et petit à petit, on va arriver à tourner de plus en plus.
C'est avec la tête que tu vas chercher ton orientation ou c'est dans l'impulsion que tu vas réussir à
créer
Non,
c'est dans l'impulsion, en fait. On va, je sais pas comment dire, parce que c'est naturel.
C'est naturel.
Oui, à force. Et en fait, on va donner, je sais pas, on va abaisser notre épaule, en fait, et avec la vitesse, ça va créer une rotation, en fait. En fait, des petits mouvements de notre corps en l'air, on va créer une certaine rotation, en fait.
D'accord.
Si je fléchis mes jambes, je vais tourner plus vite que si je reste en position tendue. Donc, du coup, cet élément va être plus difficile. Donc, on va donner aussi plus de points.
D'accord.
Donc,
Et donc assez déjà, pour se donner une idée, donc t'as commencé à 12 ans et...
C'est très tard pour cette activité, c'est très rare que les gens commencent aussi tard. Normalement, voilà, on fait de la gym et après on a déjà un très bon niveau et on vient en tumbling. On peut aussi venir directement du tumbling, c'est assez rare en France.
Ouais.
En Russie, ils viennent que du tumbling.
D'accord.
Mais voilà, on peut y venir petit à petit, mais...
Ok, et du coup, comment t'arrives c'est-à-dire que tu vois, tu dis que t'as quand même déjà un palmarès et tout ça. Donc, c'est sûr, moi, dans les arts martiaux, les sports de combat, on a toujours à progresser aussi. Mais là, quand tu vas faire un stage comme t'as été faire, par exemple, tu sais spécifiquement sur quoi t'as besoin de travailler.
Alors, le stage que là, j'ai fait en Martinique, il est particulier. Je le fais une fois par an.
Ouais.
Et là, c'est vraiment pour me ressourcer. Et aller chercher vraiment de la vitamine D, du soleil pour pouvoir être plus performante, améliorer la récupération, permettre une meilleure au niveau osseux, que ce soit mieux. Enfin, vraiment, c'est pour la performance que j'y vais pour la suite de la saison, pas vraiment pour performer là-bas, parce que les conditions là-bas ne sont pas l'idéal en fait en termes de tumbling.
C'est juste, ça te permet de te ressourcer.
Pour mieux repartir.
D'échapper à la neige.
Voilà.
T'es parti au meilleur moment.
C'est très important pour un sportif à un moment donné d'avoir un stage comme ça, en fait.
Ouais, d'accord.
Et du coup, après, là, par contre, en avril, j'aimerais partir en Russie.
Ouais.
Où là, vraiment, c'est pour la performance, pour aller chercher des difficultés, augmenter le niveau et ce genre de choses. En fait.
Donc, c'est les Russes un peu la référence en tumbling ?
Oui. Les Russes, les Russes, les Chinois, les Anglais, vraiment.
Ouais. Les Américains, ils y sont pas trop, non ?
Ils y sont un peu, mais pas autant qu'en gymnastique.
Ouais, d'accord.
C'est vrai que...
Et alors, comment ça se passe un petit peu, les entraînements ? Donc, toi, en temps normal, tu as deux entraînements par jour ?
Alors, oui, j'ai deux entraînements par jour. Alors, un peu moins maintenant, on va dire, quand j'étais plus jeune.
Ouais.
Pas vieille pour autant.
T'as quel âge, là ?
26 ans.
26 ans.
Bon, donc, voilà, quand j'étais un peu plus jeune, je faisais vraiment le matin. Ensuite, j'allais en cours et après, je me réentraînais le soir. Donc là, je fais deux fois et tous les jours, mais donc des fois, ça va être plutôt le matin renforcement ou yoga ou des choses, des assouplissements. Donc
plus partie physique le matin, en
voilà,
fait.
Voilà, et l'après-midi, plus une partie tumbling.
Technique, d'accord.
Technique, oui.
Et donc la partie physique, parce que c'est vrai qu'il y a quand même, au-delà de la technique, c'est vrai que si t'as pas le physique dans cette discipline, tu...
C'est un peu plus compliqué après,
loin,
faut... on peut être très doué et du coup ne pas avoir besoin, mais c'est pas pour tout le monde. Et moi d'autant plus du coup que j'ai une grave blessure, et du coup maintenant je dois renforcer mon dos
constamment. Alors à quoi ça ressemble donc déjà ta partie d'entraînement physique que tu fais, est-ce que tu as fait un sport étude du coup pour pouvoir faire ça au départ?
Non, il n'y a pas vraiment de sport étude pour le tumbling, donc j'ai essayé de voir directement avec les professeurs, le directeur d'école pour aménager en fait
aménager tes horaires.
Mes horaires, donc tout le lycée je me suis débrouillée comme ça. J'ai pas du tout eu vraiment d'aménagement, j'allais juste pas en sport par exemple, et c'est
pas
tout
trop
quoi.
Besoin.
Donc j'ai passé le bac comme tout le monde, voilà, je m'entraînais le matin de 6h à 7h30 et après j'allais en cours et je repartais le soir m'entraîner. Donc c'était assez compliqué.
Et du coup
compliqué,
tu t'entraînais tout seul le matin de 6h à 7h30 parce que...
Oui, moi et mon coach. C'était vide, il faisait nuit.
Et ton coach, il venait à 6h du matin pour t'entraîner, il est sympa,
dis-donc. Il était motivé.
il est dans le coin là-bas, le coach. Mais, ah ouais, parce que moi, si on me demande de venir à 6h du matin pour entraîner des gens, je crois pas que, je crois pas que je serais là.
Je pensais que j'avais des possibilités.
Ouais. Donc en fait, c'est ça l'histoire, c'est que toi, t'as commencé comme, on va dire, tout enfant ou ado, et puis il a détecté que tu avais un potentiel, quoi.
Voilà, et puis voilà, comme j'ai commencé un peu tard, il a fallu aussi rattraper un peu le temps perdu, quelque sorte.
Du coup, ouais, c'est pas mal, parce qu'au final, tu as commencé tard, mais il a quand même vu rapidement qu'il y avait un potentiel, quoi.
Alors, en fait, on a fait des tests tout simples, je devais sauter d'un coin à l'autre, et par rapport aux autres, en fait, j'ai eu un saut beaucoup plus important. Du coup, là, il s'est dit, elle a triché ou... Et en fait, il m'a fait refaire et non, j'avais pas triché, c'est juste que je rebondissais bien, en fait.
D'accord.
Là, il s'est dit, il y a des capacités physiques, on peut faire quelque chose.
Et t'étais sportive un petit peu avant déjà ou...
Oui, j'aime le sport. Ouais. Enfin, de base, j'aimais vraiment faire du sport tout le temps.
T'avais testé d'autres choses avant la gymnastique?
Oui, j'ai fait du tennis, du judo, de la natation.
Et en général, t'étais plutôt bien à chaque fois dans
Oui, ça se passait toujours bien.
T'avais une facilité, on va dire. Une bonne coordination, une bonne capacité athlétique déjà.
Voilà, ouais, même en athlétisme, on voulait, certains professeurs voulaient que j'aille faire de l'athlétisme en 100 mètres.
D'accord.
Bon, j'étais un peu petite, mais je courais vite.
Ouais, t'as la fibre rapide.
Oui, voilà.
Voilà, ah, c'est intéressant. Et alors, donc, ton entraînement physique, ça se passe comment? Les gens, ils aiment bien, moi déjà, j'adore savoir comment s'entraîne... chacun, et surtout les athlètes de haut niveau et tout. Et puis je sais que d'une discipline à l'autre, entre ce que nous on fait dans les sports de combat et ce que vous faites, il y a sans doute pas mal de différences. Et pourtant, en termes de qualité physique que vous arrivez à développer, il y a des choses qui nous vous intéresseraient, parce que vous êtes en général donc explosif et puis souple et avec une super coordination. Donc nous, c'est tout ce dont on a besoin, mais tout ce dont tout athlète, je pense, a besoin en réalité.
Oui.
Quoi.
Mon entraînement physique, en fait, je vais aller à la musculation deux fois par semaine, faire le haut du corps et le bas du corps.
Ok.
Enfin, je sais pas vraiment, mais en soi, ça se regroupe. Mais
tu fais des séances séparées, tu fais du split.
Le bas du corps, en fait, je vais faire squat et soulever de terre. Mais en fait, je vais pas réellement viser, quand je vais faire mes squats, les jambes. En fait, je vais mettre plutôt lourd et faire que des quarts de squat.
D'accord.
Pour en fait faire vraiment en fait une stabilisation au niveau du tronc par rapport à mon dos. Donc, parce que les jambes, en fait, finalement, je les renforce tout le temps quand je rebondis.
Ouais.
Donc si je les refatigue encore, je récupère. J'ai du beaucoup de mal à récupérer.
C'est ça la gestion entre le...
C'est ça qui est compliqué.
Il
ne
faut pas que le physique il empêche de travailler sur la technique. Il faut garder le système nerveux frais.
Voilà.
Il faut avoir le temps de récupérer de ces séances. Et c'est vrai que parfois, il y a des gens qui se font des programmes physiques de malades, et en fait, après, derrière, en fait, ça impacte complètement leur travail technique.
C'est ce qui est très difficile, c'est ce que même j'ai eu du mal à trouver le bon dosage au niveau de la musculation, quand la faire, combien de jours de repos derrière, parce que si je me renchaîne le lendemain, je rebondis absolument pas, donc j'ai des courbatures, j'arrive même pas à courir.
Ouais.
Donc du coup, souvent je le fais, je vais voir pour le samedi matin, pour avoir le samedi après-midi, le dimanche, et pouvoir reprendre le lundi matin. Souvent, d'accord. J'essaie de faire comme ça.
Okay.
Ou le samedi après-midi, si j'ai entraînement le samedi matin.
Ok. Soulevé de terre, tu fais plutôt classique ou sumo?
Classique.
Classique, ouais.
Ouais,
plutôt classique. Et donc des séries courtes, mais lourdes.
Ouais, voilà.
D'accord. Ok. Et après, tu travailles... juste ces deux exercices pour les jambes
après,
ou t'as des exercices
après
accessoires
je vais faire,
un peu.
Non, après je vais plus aller vers du dos du coup, traction, ouais. Des séries de traction,
okay.
Poids de corps.
Ouais.
Après des tirages.
Mm-hmm.
Donc voilà, c'est plus cette séance, on va dire bas du corps, mais finalement
ouais.
Qui n'est pas vraiment bas du corps.
Ouais. Okay.
Et après pour l'autre séance, ça va plus être vers tout ce qui est pectoraux.
Ok.
Donc,
d'accord, ça t'en as besoin aussi
Bah, c'est plus pour équilibrer et puis moi je sens que quand je fais des pectoraux, ça me renforce aussi le dos parce qu'on doit être gainé.
Ouais.
Donc en fait, tous ces éléments, moi je vois vraiment.
D'accord. La partie gainage, vous la faites plutôt en cours
Je fais plus voilà, le matin.
Ouais.
Voilà, des petits renforcements, gainage, tout ça. Et j'en ai au début d'entraînement, en échauffement, on va dire, on fait beaucoup d'abdominaux.
Ouais.
Et à la fin aussi.
D'accord. Et vous les travaillez comment, les abdominaux? J'ai vu quelques vidéos, tu fais la planche, tu fais des... la cuillère, les relevés en...
Voilà, ça va être...
J'appelle ça relevés en V, les trucs comme
voilà,
ça, mais
ça
je sais pas si c'est comme ça que vous appelez ça.
Nous, on appelle ça
ouais.
Des fermetures carpées.
Eh voilà, ouais, c'est mieux.
Donc, des balancés ouais. Sur le ventre, balancés ouais. Sur le dos et gainage. Donc ça va être mon circuit d'échauffement.
Ça, c'est proche de ce qu'on fait en gymnastique.
Oui,
ouais.
Oh, ouais, complètement.
Et c'est vrai que c'est pas la manière, au final... Il n'y a pas beaucoup de gens, je pense, en dehors de la gymnastique, qui travaillent beaucoup comme ça.
Non,
tu vois
non.
Alors, la planche, c'est devenu populaire, dans...
ouais.
Mais le reste, les gens, ils n'aiment pas trop, quoi.
Non,
alors que c'est hyper efficace.
Ah oui, les fermetures
ouais.
Carpées.
Ouais, ça tue, ouais.
Même moi, encore maintenant, alors
ouais.
Que j'en fais énormément, ça me chauffe toujours les abdominaux.
Tu fais des séries longues ou...
Ben, en fait, par exemple, mon circuit d'échauffement, on va faire 10 fermetures carpées,
ouais.
10 balancées sur le dos, 10 balancées sur le ventre,
ouais.
Et 10 secondes de gainage.
D'accord.
Et après, on repart 9, 8, 7, 6, 5.
Donc quand tu dis balancer, c'est par exemple tu es en cuillère, tu bloques et tu
et je
fais
balance,
comme
voilà.
C'est ça ouais. Ouais, ça c'est enfin moi de temps en temps dans mes cours collectifs, je leur fais faire un peu de justement d'exercices comme ça et ça le balancer, ils ont trop de mal quoi.
Ah oui, ça
ouais.
Oui, c'est vrai
hyper
que
hyper dur hein, pour les gens qui connaissent pas. T'as les gens, ils font plein de crunch, des trucs comme ça, des exercices d'abdos et tout mais ils arrivent parce qu'en fait, on parle de gainage pour les abdos mais en fait, c'est l'ensemble du corps qui est gainé, tu vois.
Oui, complètement.
Et il y en a, ils serrent leurs abdos mais le reste ça tient pas, tu vois. Les jambes ne tiennent pas, ou, tu vois. Donc,
les bras,
ouais,
les jambes sont mous.
C'est hyper dur de... Mais c'est vrai que c'est des super bons exercices, ça.
Ouais.
Ouais. Et malgré ça, ouais, toi, tu sens que tu as besoin de faire ta musculation, donc ton soulevé de terre, un truc comme ça, pour stabiliser
en plus,
encore
ouais.
Plus, quoi. Ouais.
Bah, il faut que ce soit lourd. Parce que j'ai déjà essayé des squats avec un peu moins lourd en descendant plus bas. Ça marche pas pareil.
Ouais.
Non, vraiment.
Et les chevilles, donc, apprennent beaucoup. Tu fais des exos spécifiques un peu pour
je
les...
Je renforce les chevilles avec des petits exercices, avec des élastiques. Je
ouais.
Fais beaucoup de proprioception,
okay.
De stabilité.
Exercices un peu de pliométrie, des trucs comme ça. Tu fais déjà beaucoup de sauts.
Oui,
mais
voilà, ouais.
Tu fais de la proprioception pour vraiment...
Proprio,
ouais.
Et ça, oui.
Ouais. D'accord. Avec les élastiques, tu travailles comment pour renforcer tes chevilles?
Eh ben, je mets un élastique d'un côté et je
ouais.
Tire avec ma cheville, je tire de l'autre côté. Donc, je
d'accord.
Vais faire tous les... Devant, sur les côtés, derrière. Non,
d'accord.
Vraiment dans tous les sens, en fait. Je renforce
okay.
Ma cheville.
Parce qu'elles prennent cher, les chevilles, non.
Ça va, c'est juste quand
ouais.
On atterrit de la mauvaise manière
ouais.
Que c'est embêtant. Mais sinon, en règle générale, elles vont
avec
bien.
Avec autant de sauts à répétition et tout, ouais, ça va.
Elles vont bien.
Ça se tasse pas.
Voilà, non, ça va. Faut vraiment pas rater
ouais.
Son acrobatie. Sinon, là, oui, ça fait mal.
D'accord.
Mais si on est bien positionné, qu'on fait les choses bien, il n'y a pas de souci.
Ouais. Ok.
Oui, c'est vrai qu'en regardant comme ça, on se dit, oula. Non, pas du tout.
Ouais, moi ça me. Je crois que j'ai regardé un peu des vidéos et tout avant qu'on se voit. J'ai vu, c'était championnat d'Europe, je crois 2018, non? Il y a eu.
2018.
Ouais.
Oui.
T'avais pas des. T'étais pas strappé un peu aux
chevilles,
ouais.
Oui, parce
ouais.
Qu'en fait, c'est plus une appréhension, en fait. Parce que quand j'ai eu ma blessure au dos, on
ouais.
En parlera après, j'ai
ouais.
Eu une fracture aussi à la cheville.
D'accord.
Et du coup, ouais, moralement, ça a été compliqué et du coup je préférais les protéger pour éviter de faire si je fais une erreur que ça ne me pénalise pas en fait.
C'est plus psychologique
voilà,
en fait.
Voilà, de protection
ouais.
Au cas où.
Mm.
Mais c'était pas du tout parce que j'avais des douleurs.
Et je te voyais du coup là dans la vidéo, ça qui était marrant et je me suis dit que j'allais te poser la question mais on te voit donc bon, tu te concentres et tout mais tu repositionnes plusieurs fois tes pieds qui sont déjà serrés, tu vois mais c'est au millimètre, tu vois, t'ajustes comme ça et tout et du coup je me disais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête C'est sans doute donc c'est une échéance pour laquelle tu t'es préparé. Mmh. Il y a forcément du stress, tout ça, mais comment tu as quand même de l'expérience maintenant à ce niveau-là. Comment tu gères ça? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête, en fait, avant de te lancer
Il faut y aller. C'est maintenant, il faut y aller.
Est-ce que tu revois des points, tu sais qu'il ne faut pas que tu rates, tu repenses à des trucs?
Non,
ou tu
ça, j'y pense avant, pendant les heures qui sont avant la compétition. Okay. Je vais vraiment penser à tout ce qu'il faut.
Ouais.
Et puis au moment de passer, il ne faut surtout plus penser. Si on pense, c'est que c'est plus bon.
D'accord.
Il faut laisser libre, lâcher prise en quelque sorte, et pour pouvoir donner le meilleur de soi, en fait.
Ce qu'on te voit, tu respires, voilà. Et donc là, pendant ce... en fait, tu vides ton esprit. À ce moment-là, il ne se passe rien.
Il ne se passe plus rien. Il y a une bulle, en fait. Ouais. On n'entend plus rien.
D'accord. Et donc, c'est le plus l'avant où tu te focalises.
Voilà. Ouais, les heures avant.
Comment ça se passe, les heures avant? Donc, tu arrives pour la compétition.
En fait, on arrive une semaine avant pour un championnat d'Europe parce qu'il faut s'habituer au matériel. C'est pas le même. Donc, du coup, on va arriver au moins à peu près une semaine avant pour s'entraîner. Parce qu'il y a une salle d'entraînement et une salle de compétition. La salle d'entraînement n'est pas... Pareil, c'est encore un autre matériel, donc il faut s'habituer au changement de lumière, au changement d'espace.
Ouais, ça, c'est un facteur à prendre en compte, la lumière et tout.
Oui, parce que visuellement, en fait, ça n'a rien à voir. Donc, en fait, il faut qu'on s'habitue à s'entraîner dedans pour que quand le jour J, on n'ait pas un problème, en fait, à se dire « je vois plus rien, je vois pas où je suis dans mon acrobatie ».
C'est plus parce que ça peut t'éblouir ou c'est parce que tu prends des points de repère?
Non, c'est du repère, en fait.
D'accord, ouais, t'es obligé de te prendre des points de repère...
En fait, on n'a pas vraiment de point de repère où je me dis dans cette salle, je vois ça. Non, c'est vraiment un ensemble, en fait. C'est une lumière, c'est un ressenti,
d'accord.
En fait. Où on fait, on sait où on est, on sait où on va atterrir, on sait comment on est. Et s'il y a des changements pour X raison, un flash ou autre, ça peut déstabiliser, en fait.
D'accord. Ah, tu vois, ça, j'avais pas pensé.
Donc tout ça, voilà, on vient avant pour s'approprier le matériel, le lieu. Et comme ça, du coup, voilà, voir les éléments qui vont pas, parce que la piste, des fois, peut être plus molle, plus dure. Donc les marques peuvent changer un petit peu, donc la course faut peut-être la modifier, penser peut-être plus à être dos rond dans la piste pour mieux repartir dans l'acrobatie, enfin des détails techniques en fait qu'il faudra peut-être penser plus ce jour-là, peut-être lié à la fatigue, au stress ou au matériel qui est différent.
Sympa.
Donc voilà.
D'accord, ok. Et donc le stress, comment tu le gères? Juste par prendre confiance justement en prenant connaissance du matériel et tout ça, ou t'as d'autres choses? Est-ce que tu utilises, je sais pas, de la sophrologie, de la méditation,
choses comme ça? Beaucoup méditation. De méditation et pour garder confiance en fait, pour ne pas douter.
Ok.
Et beaucoup de visualisation en fait. Je refais mes séries pour qu'elles soient parfaites, pour que le moment de passer ça puisse être le mieux possible sans avoir à penser.
Et alors la méditation, parce que moi j'ai beaucoup de gens... qui en parle, moi c'est un truc que j'ai jamais vraiment réussi bien à faire. Toi comment tu fais ça par exemple? Parce qu'il y a plusieurs types de méditation.
Moi j'utilise une application toute seule, j'ai encore pas vraiment réussi on va dire.
Tu utilises laquelle l'application?
C'est Calme. Petit Bambou.
Petit Bambou, ouais. j'ai essayé Petit Bambou. Ouais.
Et ben moi je trouve que c'est génial.
Non mais c'est bien, mais moi je...
Ça me change vraiment.
Ouais, vraiment
quand j'en fais et quand j'en fais pas, je vois la différence.
Tu fais quoi, le matin ou...
Le matin au réveil. Je fais une séance.
Je sais qu'il y en a qu'on peut faire le soir. Avant
oui,
coucher,
on peut faire quand on veut.
Ouais.
Au travail, si on a 10 minutes, hop. Ça peut se faire n'importe quand. Il suffit d'être au calme.
Ouais.
Et voilà, de faire. Mais moi, je trouve vraiment que ça m'aide à être positive, à avoir plus confiance. Voilà, parce que je suis souvent une personne qui a des doutes.
Ouais.
Et du coup, j'arrive à passer un peu au-dessus avec ça, en fait.
D'accord. Ouais, c'est intéressant. Donc, Lauriane recommande Petit Bambou.
Voilà. Ouais. J'aime bien.
Ok. Bon, bah, c'est bon à savoir. Je réessayerai peut-être. Moi, j'avais essayé plus avant de me coucher. Parce que moi, j'ai un peu de mal. J'ai un cerveau qui a du mal à se mettre en off. Quand je me couche, je suis tout le temps en train de penser à plein de trucs, plein de trucs. Et du coup, j'écoute des podcasts aussi souvent, en fait. Et je finis par m'endormir en écoutant un podcast, tu vois. Et Petit Bambou, j'avais essayé quelques fois. Je me suis endormi un peu avec.
C'est pour ça que le matin, souvent, on est un peu réveillé et du coup, ça permet de bien être à l'écoute. Que sinon, si c'est après manger ou le soir, voilà, on finit par s'endormir et c'est pas l'idéal.
Ouais. Ok. Je voulais te demander aussi, est-ce que, comme les combattants, vous êtes pesés? Parce qu'il y a des catégories de,
non,
de poids
de
ou pas?
Non, il n'y a pas de catégorie de poids.
Donc, vous n'êtes pas pesés?
On n'est pas pesés, mais bon, si on prend un peu trop de kilos, on va dire qu'on rebondit moins. Ouais. Enfin, tout est beaucoup plus difficile. Si on fait un salto avec un certain poids et qu'on rajoute 2 kilos à chaque cheville, on va le sentir que c'est beaucoup plus compliqué.
D'accord.
Donc, c'est plus pour soi, en fait.
Mm.
Donc, on n'est pas pesé. Après, il y a des entraîneurs qui pèsent leurs athlètes. Moi, il ne m'a jamais pesé. Par contre, il me dit il faut faire attention. Il va le voir si je grossis. Il me dit fais attention. Mais bon, maintenant... Ah, ça, c'est quand j'étais vraiment jeune. Maintenant, je sais m'occuper de moi et quand c'est bien ou quand c'est pas bien. Après, je sais aussi me lâcher parce qu'il faut savoir faire attention, mais aussi se faire plaisir.
Ben oui.
C'est important. Donc maintenant, je sais plus ou moins gérer mon alimentation.
Je sais que la nutrition, moi, c'est un sujet que j'adore aborder à chaque fois. Je l'aborde souvent avec les invités. Donc, je vais te poser un peu des questions justement sur ton plan alimentaire, tu vois, parce que... Je pense que c'est un des plus gros problèmes que les gens ont aujourd'hui. Tu vois, il y en a qui s'entraînent correctement et tout, mais qui n'ont pas l'alimentation. Tu vois, je vois que c'est un truc qui revient souvent sur ton Instagram où tu disais, grosso modo, il y a deux leviers, quoi, l'intensité de votre entraînement et ce que vous mangez, quoi, l'alimentation. Donc, c'est quoi ton alimentation, Lauriane?
Bah, c'est simple, je mange de tout. Non, en fait, enfin... J'ai pas vraiment un plan précis. Je vais manger un peu de tout, tout le temps. Je sais me faire plaisir. Mais le matin, par exemple, je vais manger, je sais pas, du pain complet avec de la confiture ou bien de la dinde, suivant si j'ai envie de sucré ou de salé.
Ouais.
Toujours une boisson, donc souvent un thé. Voilà, des fois, ça peut être un chocolat chaud, c'est un peu plus rare, mais j'aime bien.
Okay.
Un jus de fruits ou un fruit. Souvent, ou un jus de goyave aussi, j'aime bien. Okay. Puis c'est riche en vitamine C, donc c'est une bonne chose. Et voilà, après, donc, un petit déjeuner assez basique. Hein.
Tu te lèves assez tôt ou t'as pas de niveau de ton
non,
planning?
Pas une, bon, 8, vers 8 heures, quoi, pour avoir quand même une bonne journée. Et donc, avoir le temps de faire aussi un peu tout gérer. Instagram aussi, ça faut le gérer quand même.
C'est presque un boulot à plein temps.
Voilà, on penserait pas, mais il y a plein de choses à gérer, donc il faut quand même, il y a l'administratif et tout ce genre de choses. Donc après, voilà, et puis le midi, je vais manger une viande ou un poisson avec des féculents et des légumes. Ensuite...
Du coup, c'est après ton entraînement du matin, ça?
Voilà.
Donc tu manges le matin, tu t'entraînes,
et
c'est
ça, voilà, je mange le midi, je
fais jamais d'entraînement à jeun, de trucs comme ça, non?
Non, alors ça va être plus quand il y a eu les fêtes et qu'il faut perdre du poids. Là, je fais à jeun parce que ça va beaucoup... Enfin, c'est beaucoup plus facile de perdre du poids à jeun. Mais après, voilà, le midi, du coup, après un petit dessert, ça va être une compote, un fruit, ou quelque chose comme ça. Le goûter, ça peut... Des fois, ça dépend. Soit je prends une barre de céréales ou un shapeshake, comme on appelle ça chez Food Spring. Donc, c'est un petit encas, voilà, un peu protéiné, donc pour limiter l'apport en sucre.
Et avoir un bon apport de
gras,
protéines
et
pour
voilà,
la réparation
musculaire.
Musculaire,
voilà. Et après, le soir, c'est pareil, une viande ou un poisson. Je mange quand même beaucoup de viande. J'aime bien la viande.
Ouais, moi aussi, j'adore la viande. Même si c'est la mode des véganes. J'adore la viande, donc bon.
Oui, c'est vrai que bon.
Bah après, il faut, voilà, chacun fait... aussi en fonction de son goût, et je pense que c'est vrai que c'est important pour manger correctement d'aimer ce qu'on mange, c'est-à-dire qu'un plan alimentaire que tu suis mais que tu n'aimes pas, tu tiendras
c'est
jamais
pas possible,
et c'est vrai que c'est, donc toi tu comptes pas du tout ce que tes calories?
Non, alors en fait je vais les compter quand voilà, quand j'ai fait des excès, qu'il faut que je retrouve mon poids de forme en fait. Mais une fois que j'ai mon poids de forme et que je fais attention, je mange sans compter mes calories.
Même chose, donc tu sais à peu près ce que tu manges, non?
Oui, oui, oui. Ah, surtout, j'ai appris à savoir combien ça valait en calories, en fait, les aliments et les plats que je pouvais préparer. Donc, du coup, je sais à peu près ce que je mets dans mon assiette, combien il y a à peu près.
Bah, c'est ça, moi, ce que je recommande aux gens, c'est, je leur dis, il faut bien un peu compter un moment pour apprendre.
Pour apprendre, c'est ça.
Et une fois que tu connais, parce qu'au final, même si on aime bien se dire qu'on ne mange pas tout le temps la même chose, mais sur une semaine, si tu regardes, tu manges... Enfin, d'une semaine à l'autre, il y a plein de choses que tu manges souvent, tu vois, parce qu'au final, il y a des plats qu'on aime bien, on va les remanger souvent.
Voilà.
Et puis bon, bah, si tu manges trois fois par semaine, trois fois par jour, je veux dire, pas par semaine, ça serait un peu dur. Trois fois par jour, tu vois, sur 7 jours, ça te fait 21
repas.
On
retrouve des repas complètement.
Tu ne fais pas 21 repas différents, quoi.
Et puis en comptant ses calories, on s'aperçoit vraiment de certains aliments qu'on mange facilement, et on se dit, ah oui, quand même Celui-ci, il est assez riche.
Ouais, c'est ça.
Un truc simple. T'as des surprises, ouais, parfois, voilà, ouais. Moi, j'adore la saucisse de Toulouse. C'est, ouais. Je trouve ça très bon.
Ouais,
c'est quand
bon,
j'ai vu les calories, je me suis dit, ça, ouais. C'est sympa, mais faut pas trop en manger ou pas trop souvent.
Mais ouais, moi, j'avais fait pendant un moment, je me disais, allez, on se faisait des lentilles avec une saucisse de Toulouse, tu vois. Je me disais, voilà, bon, ouais, c'est bien, il y a ça avec des lentilles et tout. Puis après, j'avais pas trop regardé, mais je fais, mais il y a beaucoup de gras en fait.
La saucisse, oui.
C'est ça, les petits bouts blancs qu'il y a dedans.
Donc c'est vrai, ouais, que voilà, bon, ça nous permet de se rendre vraiment compte des aliments.
C'est
hyper
important.
Et comme ça, après,
ouais,
quand on sait, bon, ben, on peut manger.
Ouais. Donc au final, ouais, il n'y a rien de fou, c'est qu'aussi tu te dépenses pas mal, quoi.
Oui.
Par rapport à la moyenne des gens, voilà. T'as...
Oui, quand même beaucoup de sport.
Même
après,
si tu fais pas tout le temps tes deux entraînements par jour, bon, t'as quand même.
Oui. Oui, j'ai quand même une bonne dépense, voilà. Mais c'est vrai que voilà, il faut quand même que je fasse attention malgré tout le sport que je fais, parce que j'ai un physique quand même, même si trois quarts des gens ne le pensent pas, je grossis assez vite. Si je fais quand c'est les fêtes ou autre et que je fais des excès comme tout le monde, je grossis comme tout le monde. Mais après,
pas non plus grosse, tu vois. Mais
non, mais je grossis là en Martinique, j'ai dû prendre un peu de poids quand même.
Qu'est-ce que t'as mangé là-bas?
Il y avait des acras de morue.
Ah, ça.
Du colombo, enfin, il y avait plein de choses délicieuses et du coup, aussi, voilà, se faire plaisir.
Bah,
c'est important.
Se faire plaisir, surtout quand on est en voyage, c'est vrai que. Après, tu regrettes si t'as pas un peu profité des plats locaux, des trucs comme
ça,
tu t'es privé.
Donc voilà,
Fait partie du voyage, on va dire.
Faut faire attention un petit peu quand même, mais voilà, faut se faire plaisir. Et du coup, là, je sais que que je recompte, je pense, mes calories pour quelques semaines pour réajuster ce poids.
Et du coup, toi, tu prends le Shape Shake de chez Foodspring, tu prends d'autres compléments alimentaires aussi ou pas?
Du coup, je prends pas vraiment de compléments comme on peut le dire. Je vais prendre le Shape Shake sur un Anka, je vais prendre les barres de céréales. Avant un entraînement ou aux 4 heures, qu'est-ce que j'ai? Les pancakes, des fois que je peux faire le matin.
Pancakes.
C'est des pancakes
de chez
protéinés de chez
aussi,
Foodspring, voilà. D'accord. Aussi.
Je connais pas bien Foodspring, on m'en a parlé. Moi, j'ai vu que toi, je sais pas si t'es ambassadrice.
Ambassadrice
ou,
de Foodspring.
Donc, j'ai regardé justement un peu hier leur site. Donc, le Shape Shake, c'est de la whey, sorte, mais on va dire de bonne qualité. Mettre l'accent sur. Le fait que ce soit du lait de vache de pâturage, tout ça. Il y a de l'inuline dedans, il y a, je sais plus, j'ai regardé, il y a... Bon, ça a l'air pas mal. Il y a un peu moins de protéines que de ce que moi je prends.
Que la whey,
je prends
c'est
la
un peu
whey,
moins protéiné, voilà.
C'est
70%. C'est un peu plus sucré, du coup, c'est...
Ouais.
C'est, voilà,
c'est
pour
la base de stevia, je crois.
Oui, il me semble.
Ouais. Du coup, il n'y a, pas de sucre à proprement dit, mais... Et j'ai vu qu'ils avaient une sorte de Nutella aussi.
Oui, qu'ils ont sorti là il y a très peu de temps.
T'as déjà testé ça ou pas?
Et du coup, j'ai testé un petit peu. Donc là, il faut que je regoute. J'avais goûté un petit peu. Mais là, je veux vraiment regoûter. Donc, il faut que j'attende de rentrer sur Rennes pour vraiment me faire vraiment des tartines avec leur pain. Parce qu'ils ont aussi un pain protéiné.
Un pain protéiné,
donc
j'ai pas regardé trop la composition pour voir, mais... Ça,
pour moi, c'est relativement bien.
Et
en goût, c'est bon. Donc...
Parce qu'après, leur je ne sais plus comment ils appellent ça, mais on va dire leur Nutella, quoi, il est beaucoup moins sucré, mais au final, j'ai regardé...
Niveau lipide, il est pareil.
Et il est même quasiment, en termes de calories,
il
est pareil qu'un Nutella classique.
Voilà, c'est juste moins sucré. En fait, le sucre est moins et la protéine est plus.
Ouais.
Mais sinon, au niveau gras, c'est la même chose.
Ouais.
Donc,
ouais.
faut pas en abuser, ça c'est sûr.
C'est pas une excuse pour dire c'est bon, c'est de la protéine.
Voilà, c'est
et,
ça. Et y aller, finir le pot. Non. C'est un petit excès, mais sans que ce soit trop non plus.
Parce que moi, c'est vrai que c'est un truc, les gens qui me connaissent, ils le savent, mais le Nutella, c'est un truc de mon enfance. Et j'arrive des fois à ne plus en manger pendant 6 mois, 7 mois. Mais dès que je remets le nez dedans, c'est... Je sais pas. Tu sais, c'est un truc qui est inscrit dans ton enfance, tu vois. Et du coup, c'est hyper dur, quoi.
Oui.
Et c'est vrai que j'ai jamais trouvé un truc que je trouvais équivalent
aussi bon
en termes de goût. Hein. Je sais que c'est pas bon pour, au niveau nutritionnel pour le corps, mais en termes de goût...
L'huile de palme qui fait aussi polémique.
Voilà.
Enfin, c'est...
Ouais, voilà. Mais c'est vrai qu'en termes de goût... Donc là, j'avais vu leur truc à eux, je me suis dit, tiens... Est-ce que c'est bon ou pas? Donc, peut-être que je testerai.
Vraiment regoûter bien pour pouvoir vraiment donner. Je veux vraiment, sur plusieurs moments, parce que des fois, à certains moments, on n'a pas envie de ça. Donc, je veux vraiment le goûter sur plusieurs, un plus long terme pour donner vraiment un avis sur ça, quoi.
Et du coup, tu prends pas de vitamine C, vitamine D, t'as pas de multivitaminé
Si, il y a un daily vitamine.
Ouais.
Donc là, du coup, que je prends pas vraiment là, parce que j'étais en Martinique, j'en avais pas besoin. Mais là, que peut-être février, fin février, début mars, je pense que j'en aurais besoin d'un coup de boost.
Ouais. Pas de créatine pour la récupération.
Après, si, BCA. BCA, que je prends après l'entraînement, enfin pendant et après, j'ai l'énergie Aminos.
Ouais.
Aussi,
d'accord.
que je prends pendant. Okay. Donc, je ne prends pas tous les entraînements parce que bon, c'est la caféine. Bon, je ne bois pas de café, mais.
Ouais, c'est vrai qu'il y a du. Ouais. Il y a quand même... du guarana, je crois, ou je sais plus, j'ai vu dans leur. Voilà, j'ai regardé un peu hier le site quand même.
J'en prends, mais c'est vrai que je veux pas en prendre tous les jours non plus parce que bon.
T'en as pas besoin.
Voilà, quand ça va, quand je me sens bien. C'est plus quand je sens que je vais être fatiguée, que ça va être compliqué, et qu'il y a des choses à faire, parce qu'il faut avancer.
Ouais.
Là, je le prends parce que je me dis, il faut y aller. Quoi.
D'accord.
Donc, c'est une petite aide, en quelque sorte.
Ok.
Pour être plus attentive et un peu plus concentrée. Parce que des fois, quand on est fatigué nerveusement, c'est souvent moi mon problème. C'est pas la fatigue physique réelle, mais la fatigue nerveuse.
Ouais.
Ou au bout d'un moment, je vais avoir du mal à me concentrer, je vais être en bout de la piste, je sais l'élément que j'ai à faire, mais je me dis là, concentre-toi, parce que si tu ne te concentres pas, tu vas te planter.
Ouais, d'accord.
Et des fois, c'est très compliqué, parce qu'on voit tout ce qu'il y a autour, mais on n'est absolument pas concentré sur ce qu'on a à faire. Donc ce genre de produit peut m'aider, en fait, à la concentration.
À la concentration, ok. Sur la souplesse, comment tu travailles ta souplesse? Parce que pareil, t'as des super photos, t'es la Jean-Claude Van Damme du tumbling, t'as les photos là en suspension, en écart je crois, puis c'était t'as un truc sur une cage à squat je crois, ou alors où t'es suspendu par les pieds.
Une sorte de TRX. En grand écart, donc,
Est-ce que t'as une souplesse naturelle
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Non, je travaille en fait.
Ouais.
Tous les jours, je fais ma souplesse un petit peu le matin et surtout après mon entraînement. Donc,
d'accord. Tu consacres combien de temps à peu près par jour?
Oh, bonne heure.
Ah ouais? Une heure par jour.
Ah oui. Parce que je fais des étirements, donc un peu le matin. Avant mon entraînement, je m'étire quand même assez activement, mais je m'étire. Et après, je m'étire beaucoup.
D'accord.
Après l'entraînement, on sait pas trop s'il faut s'étirer après l'entraînement ou pas. Moi, je fais par rapport au ressenti. Je sens que si je m'étire pas de suite après l'entraînement, le lendemain, je suis raide comme je sais pas quoi.
Et tu fais du coup à ce moment-là plutôt des étirements passifs après l'entraînement.
Alors après l'entraînement, oui, beaucoup plus passif. Ouais. Oui.
D'accord.
Ouais,
et vraiment. Tu fais de l'actif avant.
Voilà.
Ok. Et tu fais pour de la récupération, si tu fais des exercices un peu de mobilité, des automassages avec des rouleaux, de la balle, des trucs comme ça ou pas?
Beaucoup. Bah là, ça va. Ça, vraiment, le matin, j'en fais avec le rouleau. Et des fois, après l'entraînement, je vais en faire un petit peu avec le rouleau, suivant si j'ai des douleurs à des endroits, au dos, les mollets ou les cuisses. Et après, sinon, en récupération, des fois, je fais des footings de 8-10 minutes, pas plus.
D'accord.
Petite allure, en fait.
Fais carrément dans la salle ou
oui,
tu
dans
vas
la salle. Des fois, je vais courir dehors, ça dépend s'il fait beau.
Ouais.
Mais sinon, c'est souvent dans la salle. Et après, bain de glaçons. Fais ça.
J'allais te demander d'ailleurs si tu faisais de la cryothérapie ou pas. Mais
Je préfère le bain de glaçons que la cryo.
Alors, comment tu fais un bain de glaçons? Parce que moi, à chaque fois, où est-ce que tu trouves les glaçons?
Ah, ben en fait, je prends les packs, les gros packs de
froid. Gros packs.
Voilà, que j'ai un tiroir rempli dans le congélateur de packs.
Ah ouais.
Et du coup, j'ai au moins 15 packs. Et donc, je remplis la baignoire. Ou suivant les endroits, j'ai une petite piscine aussi, suivant les hôtels.
Où est-ce que tu trouves les packs de glaçons?
Quand les packs, ça s'achète. On en trouve, un peu partout.
Ah ouais. Écoute,
des gros packs. C'est vrai que j'en ai chez moi. Enfin, c'est ma mère qui me les avait donnés. Mais c'est vrai que je sais pas où elle les a eus. On a peut-être dû lui donner. Ou ça s'achète. C'est des gros packs,
ouais. Et du coup, t'as une baignoire.
Voilà, une baignoire. Je mets tous les packs. Enfin, je remplis d'eau.
Ouais.
À la bonne hauteur. Après, je mets les packs, je laisse refroidir une bonne demi-heure.
Ouais.
Et après, j'y vais. Et souvent, c'est très, très froid.
Ouais,
il
j'imagine.
Faut rester une bonne dizaine de minutes pour que ce soit efficace.
Okay.
Et il faut que ce soit en dessous de 10 degrés, vraiment.
D'accord.
Ou 5 degrés. 5 degrés, c'est bien. Entre 5 et 10.
Moi, j'ai énormément de mal. J'ai fait de la cryothérapie. Et ça, je supporte, on va dire. Pourtant, ça descend très froid, mais c'est du froid
mais c'est
sec.
Pas pareil,
c'est pas pareil. Par contre, moi j'adore les bains chauds. Alors le bain froid, pour moi, c'est l'opposé de ce que
j'aime. En fait, c'est vraiment la première minute, elle est horrible. Ouais. Il faut que la première minute soit horrible. En fait, je sais que si elle est horrible, c'est que c'est efficace.
Ouais.
Et du coup, elle est horrible. Donc là, je Je souffle, je fais presque de la méditation.
C'est l'heure du petit bambou.
Voilà, et après les 9 minutes qui suivent, bon, je m'occupe, je suis sur Instagram.
D'accord. Voilà, et tu mets que le bas du corps ou tu mets le...
Non,
le...
je mets que les jambes.
Ouais,
parce que j'ai besoin vraiment de récupérer, c'est mes
jambes.
C'est
les jambes, ouais. D'accord.
Donc du coup, non, pas le haut du corps, non. C'est trop froid.
Et après, quand tu sors, t'arrives à marcher, t'as pas les jambes toutes...
Bah ouais, ça met un temps, je reste debout, je ne bouge plus.
Ouais.
Le temps que ça
se réchauffe.
T'as l'impression
que tu peux plus plier le genou, c'est gelé, quoi.
Ouais, mais même passer la serviette, de frotter sur la jambe froide, en fait, ça fait mal. Alors j'attends souvent, je reste comme ça.
Et moi, les rares fois où je l'ai fait, c'est vrai qu'après, je trouve que t'as l'effet inverse. C'est d'un seul coup, t'as une sorte de chaleur après qui arrive, je trouve.
Ouais.
Au départ, c'est gelé, mais
et
je trouve qu'après, tu commences à sentir que t'es un peu en ébullition, en fait, tu vois.
Oui, un temps, et après, ça redevient où le corps est froid en lui-même, quoi.
Et donc ça, toi, tu sens que c'est pour ta récupération,
c'est
un truc tu fais tous les jours.
Non, parce que c'est contraignant, voilà. Donc je le fais vraiment quand je sais que j'ai eu des gros entraînements, que j'ai de nouveau des gros entraînements. Enfin, donc ça, pas tous les jours.
D'accord.
Sinon, je fais aussi le sauna.
Ouais.
Ça, c'est plus agréable.
Ouais, ça c'est plus sympa, ouais.
Ouais, le sauna infrarouge.
Ouais,
je préfère au sauna classe traditionnel.
Ouais.
Je trouve beaucoup plus efficace.
Ouais.
Parce que du coup, ça va beaucoup plus en profondeur. Donc par contre, faut rester 45. Je reste 45 minutes à peu près.
Ouais, 45 minutes, ouais.
Donc, mais bon, c'est moins chaud.
L'infrarouge, il est plus supportable en termes de chaleur.
Voilà, beaucoup plus.
C'est vrai que les études n'étaient pas toutes d'accord, mais j'avais entendu une fois effectivement qu'il y en a qui disaient que l'infrarouge, ça faisait une sorte de résonance au niveau cellulaire.
Ça va en profondeur. En fait, ça chauffe le muscle en profondeur.
Ouais.
Alors que le sauna traditionnel va venir chauffer la peau en superficiel, en fait. Donc, en fait, on va faire chauffer la peau, la refroidir, rechauffer, refroidir, et ça va activer la pompe cardiovasculaire pour drainer un peu toutes les toxines.
D'accord.
Alors que du coup, le sauna
infrarouge,
lui, vraiment, ça va en profondeur, ça chauffe et ça permet de bien détendre le muscle.
D'accord. Et t'as un sauna dans le club ou
non,
t'as un endroit où tu vas...
un endroit où je vais.
D'accord.
Du coup...
Moi, j'aimerais bien avoir un sauna. Parce qu'en plus, c'est vrai que je me suis intéressé à ça et c'est vrai qu'il y a plein de bénéfices, même en fait sur le hors sportif, sur le point de vue santé.
Oui, bien-être, santé.
Ça réduit, même je crois que toute cause de mortalité était réduite genre de 30%. Pour les gens qui faisaient trois fois du sauna un quart d'heure par semaine, quoi.
D'accord, oui.
Donc, non, c'est, enfin, ça a vraiment beaucoup de bénéfices.
J'en fais
plein,
quoi. C'est bien. Alors, je vais vivre jusqu'à 125 ans.
Ah, la nouvelle Jeanne Calment, là. Et tu vois, du coup, tu fais trois quarts d'heure à la suite, tu fais pas de contraste chaud-froid, toi.
Non.
Ouais.
Non, par contre, ouais.
D'accord.
Normalement, il n'y a pas besoin.
Ok.
Du coup, c'est même moins contraignant, du coup.
Et alors là, tu peux être sur Instagram aussi ou pas pendant le
sauna ? Non, le sauna,
non.
Là, je dors,
me
repose. Souvent, c'est après l'entraînement.
Ou pas dans le sauna ?
Non, même pas. Il n'y en a pas toujours, donc comme c'est un truc public, ça dépend de...
Ah, c'est intéressant, moi, j'aimerais bien, le jour où je pourrais m'acheter une cabine pour chez moi.
Ah bah moi, j'aimerais bien aussi.
Ouais. Mais ça ne coûte pas si cher que
si
ça.
Si cher, non.
Et tu as des cabines individuelles qui ne prennent pas une place de ouf, donc bon. Après, tu peux pas t'allonger en général, tu es obligé de rester assis, quoi.
On est bien allongé.
Ouais, c'est clair. Ouais. Non, le sauna, c'est top. Franchement. Donc, ça, c'est ta routine un peu de récupération.
Voilà,
c'est
j'ai
du
aussi
sauna, du froid.
Le complexe que je fais, électrostimulation. Okay. Ça aussi, je trouve que ça marche très bien en mode récupération active.
Ouais, tu fais les programmes de récupération dessus, ouais.
Donc, ça, je fais ça quasiment ça après chaque entraînement. Mmh. Et donc, des fois, je le mets avec le bain de glaçon. Et les deux ensemble, là,
c'est super.
C'est vraiment top. Et les chaussettes après de récupération.
Ouais, j'ai vu sur tes vidéos que t'as souvent les chaussettes de.
Les manchons.
Ouais, les manchons, là.
Ouais, bah oui, comme ça, ça permet en fait de limiter la contracture, on va dire, du mollet.
Donc, ça, tu sens une vraie différence aussi.
Ouais.
Si tu les as pas, quoi.
Ouais, vraiment.
C'est vrai qu'il y a plein de choses comme ça où parfois on se demande est-ce que c'est vraiment utile
efficace,
ou est-ce que c'est juste dans la tête, tu dis tiens, allez, ça va peut-être...
Moi, je le fais ressentir. Ouais. Si je teste, si je trouve que vraiment ça m'apporte quelque chose, ben, je garde. Sinon,
Moi, j'en ai utilisé à une époque, mais c'est vrai que je n'ai pas le réflexe de les remettre souvent. Il faudrait que je réessaye.
C'est qu'il n'y a peut-être pas d'utilité. Voilà, chaque personne est différente. Si...
Non, mais c'est vrai que je pense que ça a quand même... Déjà, ça active le retour veineux. Donc, c'est vrai que pour la récupération, tu vois, même... À l'entraînement, tes jambes vont se fatiguer beaucoup moins vite, je pense.
Ouais.
Donc, il faut que je le refasse pour mes séances de lutte où je me retrouve souvent fatigué avec mon prof qui est beaucoup plus léger que moi, beaucoup plus vif et du coup qui me fatigue souvent. Et c'est vrai que ça peut être pas mal. Il faut que je pense à les remettre. Ok, donc ça, c'est plein de petits trucs et astuces qui peuvent intéresser les gens. Et donc là, on va parler un peu la mauvaise expérience. Donc, tu as eu une blessure assez grave.
Oui.
Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé?
Alors, si je reprends depuis le début, non. En fait, j'ai été une sélection championnat du monde.
Mm-hmm.
Et en fait, j'étais très fatiguée parce que j'avais eu la prépa Jeux mondiaux, donc qui correspond aux Jeux olympiques.
Ouais.
Pour les sports non olympiques, donc qui se fait tous les 4 ans avec le comité l'organisation par le comité olympique.
Okay.
Et donc, c'est un peu l'antichambre des Jeux olympiques. Donc, ils passent par là pour ensuite aller aux Jeux olympiques.
D'accord.
Donc, le timing fait partie des Jeux mondiaux. Donc, c'était en 2013.
Mm-hmm.
Et j'avais fait toute cette préparation qui est longue et difficile, fatigante. Et j'avais eu très, très peu de repos enchaîné, en fait. C'était en juillet et j'ai eu une semaine de repos. Alors que c'était une prépa de un an.
Mm.
Enfin, même plus, mais vraiment
D'accord.
difficile, un an.
Ouais.
Et du coup, je suis arrivée donc, pour la sélection championnat du monde où j'étais déjà qualifiée d'office, mais que j'ai dû faire quand même cette sélection.
Mm.
Donc, du coup, j'étais fatiguée. Non, c'était en France, à Rennes.
D'accord.
Et j'ai dû faire donc voilà cette sélection avec des minima que je savais faire. Et en fait, en l'air, je me suis perdue parce que quand on est fatigué, ça peut aller très vite en fait en timing. Et je me suis perdue en l'air. J'ai ouvert dans mon double salto, pensant arriver sur les pieds. Et en fait, je suis arrivée sur la tête, quoi.
Ah ouais.
Sur le dur. Donc, enfin, les tapis de réception, mais qui sont relativement durs.
Parce qu'en plus, tu montes assez haut, quoi.
Voilà, ouais. 2-3 mètres, je pense, à peu près. Et donc, bah, mauvaise réception. Là, de suite, je n'ai plus bougé. J'avais plus qu'un filet d'air pour respirer.
Mmh.
Une douleur atroce. Là, je me dis, c'est pas bon signe. Et du coup, après, donc voilà, ça a été très compliqué.
T'as pas été sonnée ni rien? T'es restée consciente?
Non, je suis restée consciente tout le long. Mais voilà, une douleur insupportable. Et j'ai su que bon, il n'y avait pas rien parce que je suis tombée beaucoup de fois avec des douleurs, mais jamais une douleur comme celle-ci. Donc là,
C'était même pas une douleur où tu te plies en deux, c'est une douleur où tu je bouge plus.
Je bouge plus, je reste à terre et j'attends. Donc, vraiment. Et du coup, il a fallu appeler les pompiers parce que je pouvais plus bouger, quoi. Donc vraiment. Et là, je lui ai dit, est-ce que quelqu'un peut toucher mes jambes? Parce que moi, j'avais juste un mois avant un tumbler qui était tombé et sur la tête et qui est devenu tétraplégique. Donc là, j'ai dit de toucher mes jambes, voir si je les sens. Parce que c'est
t'avais
le dos.
T'avais pas essayé de les bouger ni rien?
Non, j'avais tellement mal que je pouvais plus bouger.
Plus rien faire.
Du coup, je sentais. Donc j'avais déjà, si on a la sensation, c'est que c'est bon signe quand même. Après, faut toujours vérifier puisque ça peut venir par la suite. Mais voilà, déjà, c'était à vérifier. Donc, les pompiers sont arrivés. Donc là, ils m'ont mis dans la civière avec la coque, les collets cervicales, tout.
Et t'avais puis, ta du famille coup, qui était avec toi à ce moment-là?
Non, il y avait juste mon entraîneur.
D'accord.
Donc, il m'a accompagné.
Ouais.
Et là, il m'a toujours vu me relever. Toutes les chutes que j'ai faites, je me suis relevée. Et là, il s'est dit, oh là là, si elle ne se relève pas, c'est mauvais signe. Donc, je suis allée aux urgences. Et les urgences, ça a été très compliqué. Ils m'ont fait un premier examen, ils m'ont dit que j'avais rien du tout et qu'il fallait que je sorte. Donc j'ai dit non, ça va pas être possible. Et j'ai fini par tomber dans les pommes quand ils ont essayé de me mettre debout, parce que je pouvais pas me mettre debout. Quand je suis tombée dans les pommes, ils m'ont dit on va te garder, on va peut-être faire un IRM demain. Donc le lendemain, j'étais encore aux urgences, je fais un IRM et finalement ils finissent par me dire qu'il y avait une fracture vertébrale avec arrachement de tous les ligaments. Donc la vertèbre était totalement instable et qu'elle pouvait bouger et venir compresser la moelle. Et si elle compressait la moelle, je perdais du coup mes jambes.
C'était à quel niveau?
T12.
D'accord.
Donc assez bas, voilà. Finalement, je suis arrivée sur la tête, mais c'est plus le milieu du dos
qu'a pris.
Donc voilà, du coup, j'ai eu 35 heures aux urgences avant de pouvoir être rapatriée à Paris. Où là, je me suis fait opérer.
Et c'est une opération,
Voilà, ils m'ont fait... ils ont pris un bout de l'iliaque, donc du bassin, qu'ils ont mis entre les vertèbres, parce que comme il n'y avait plus de ligaments, ils ne pouvaient pas les refaire. Donc en fait, ils ont soudé les deux vertèbres entre elles pour pas qu'elles bougent.
Donc là, t'as plus de... Ils ont...
Donc voilà, après
t'as
j'ai
plus
eu...
de disque, c'est soudé, t'as deux vertèbres soudées, c'est ça.
T11 et T12 sont soudés ensemble.
D'accord.
Et en fait, après, du coup, ils m'ont mis une arthrodèse de T10.
Ça c'est quoi?
C'est des clous avec des vis, des plaques en fait. Pour maintenir le tout, pour que la greffe elle puisse prendre.
D'accord.
Et donc voilà, après j'ai eu un an d'arrêt ferme. Et après ils m'ont réenlevé en fait le matériel.
Ouais.
Parce que je pouvais pas reprendre le timing avec le matériel.
Ah. Parce que souvent ils laissent.
Ils le laissent à vie normalement. Ouais.
Mais là, j'ai entendu plusieurs fois des gens qui avaient justement des plaques et tout ça. Et normalement ils les gardent.
Et normalement, ouais. Mais sinon là je reprenais le timing et ça risquait de casser le matériel. Donc ils me l'ont enlevé pour que je puisse reprendre.
Et donc t'as fait quoi pendant toute cette année?
Une année longue. Mais au début j'avais rien le droit de faire, donc aussi j'avais le droit de marcher.
Ouais.
Donc ben, j'allais en bas de chez moi, je remontais. Au début j'ai fait vraiment... Dès que j'avais le droit de refaire quelque chose, je le faisais en fait.
D'accord.
J'avais le droit de marcher, je marchais. J'avais le droit de marcher 10 minutes, je marchais 10 minutes.
T'avais pas de...
J'ai pas eu de corset.
Pas de corset,
non.
Rien.
T'es... Non, comme j'avais les plaques, il n'y avait pas eu besoin de corset.
D'accord. Et le fait quand même que t'es aussi, bah, tu sois tonique, tu sois maintenu et tout,
oui,
ça a
aidé à aller plus vite, je pense.
Aidé, ouais. Mm. D'accord.
Ouais, ouais.
Et donc pendant toute cette année-là, tu savais pas si t'allais pouvoir un jour reprendre. Ton objectif, c'était de reprendre.
Oui, en fait, je me suis pas posé la question.
T'es pas posé la question.
Je reprends.
Tu t'es pas dit, voilà, c'est bon, j'arrête.
Non,
ça m'a
pas
suffi,
du
quoi.
Tout. Ça m'a même pas traversé l'esprit. Alors que je m'étais toujours dit avant, si un jour je me blesse gravement, j'arrête.
Mm.
Et le jour J, je me suis pas posé la question en fait.
Parce que c'est
naturel.
Un truc qui arrive. Tu vois, il y a des gens qui se blessent gravement dans une activité. Bon, moi, je sais par exemple que ma femme, c'était pas une blessure grave, mais elle a fait beaucoup d'équitation. Elle a fait une chute et s'est cassée la clavicule. Bon, bah après, elle a fait, c'est bon, j'arrête, quoi. Elle aime toujours les chevaux et tout ça, mais ça lui a passé l'envie, en fait, de faire de la compétition et tout ça, tu vois, en équitation, quoi.
Ben, je sais pas, moi, ça...
Ouais. Je sais que c'est un truc que tu, voilà, tu
ouais,
peux
je...
pas te...
Ouais, c'était comme, enfin, je l'ai en refaire.
Ouais.
C'était...
Parce qu'à ce moment-là, tu devais avoir quoi, 19 ans, quelque chose comme ça, 18, 19
c'était 2013, il y avait
2013,
quoi, 21.
2011, ouais. D'accord.
J'avais 21 ans et donc, c'était... J'ai pas pensé à arrêter, c'est bon. Bah,
et
je
ta
m'attends,
famille
j'attends.
T'a pas dit, Lauriane, ça suffit
Ben non, eux, devant, non. Ils me disaient, on te suit, mais je sais que mon père, ça a été compliqué. Enfin, même ma mère, enfin, mes deux parents, ça a été compliqué. L'idée que je reprenne, quoi.
Mm.
Mais comme ils ont vu que c'était... Je me posais même pas la question, ils se sont pas dit... Ils m'en ont même pas parlé de leur inquiétude, finalement.
Et
ils m'ont laissé
si...
gérer parce qu'ils ont vu que c'est ça qui me... permettait d'avancer.
Hmm. Donc toi, tu t'es dit, bon, bah, moi, hors de question que je m'arrête, mais t'as forcément... déjà, comment tu reprends et comment tu gères... Il doit y avoir une appréhension quand même
à
reprendre.
Oui, oui. Bah,
j'ai comment t'as géré ça?
Bah, déjà, j'ai eu des doutes toute l'année déjà où j'ai évolué, avant de me faire réopérer.
Ouais.
Déjà, j'ai dû réapprendre de toutes sortes de choses parce que je pouvais plus, je marchais plus, donc j'ai dû remarcher.
T'as pas marché pendant combien de temps?
Au début c'était juste une semaine, donc c'est déjà pas mal parce qu'on se rend compte que les organes ils ont plus l'habitude après avec la pesanteur.
Ouais.
Et donc voilà, après j'ai remarché, après il a fallu recourir, renager, tout ce genre de choses, donc petit à petit ça s'est fait tranquillement, quoi.
La natation c'est bien pour reprendre?
La natation vraiment le top. Bah, là du coup j'en ai manger beaucoup.
Ouais. Moi, j'ai eu une opération de la hanche quand j'avais 25 ans et c'est pareil. Moi, j'ai eu 2 semaines où je n'ai quasiment pas marché.
Mm.
Et après, j'avais le droit de marcher qu'un quart d'heure par jour. Puis je marchais à l'allure d'un centenaire.
Ah bah
quoi.
Oui, les mamies me doublaient, moi.
Ouais, ouais, c'est pareil. Les gens me regardaient bizarrement dans la rue parce que j'avais pas de canne ni rien. J'avais pas de plâtre, d'attelle ni quoi que ce soit. Puis ils me voyaient marcher un pas par pas comme ça, tu vois. Et du coup, tout le monde te regarde un peu de travers parce que tu vois, j'avais 25 ans, donc tu dis, mais qu'est-ce qu'il a,
qu'est-ce
quoi
se passe,
tu vois, les gens ils se rendent pas compte que c'est vrai que c'était là. Bon, c'est bon, je sais que je marche pas normalement, j'ai compris, tu vois. Mais c'est vrai que c'est hyper frustrant de pas pouvoir, on se rend pas compte, tu vois. Il y a des gens qui aiment pas marcher. Moi, je sais que plein de gens, tu dis, viens, on va là à pied, ils disent, oh là non, mais en fait, quand on te prive de la marche, tu te rends compte, c'est quand même un truc, vital à la base. Et ça fait du bien, je trouve,
de
marcher.
C'est naturel, ça fait du bien, permet de prendre l'air.
Ouais. Et courir, essentiel. Tu vois. Je sais que de mes premières activités de reprise, ça a été la natation. Et même ça, j'ai eu du mal à en faire longtemps au début et tout. Mais c'est vrai que de pouvoir se dire, tiens, allez, la première fois où j'ai réussi à aller recourir, c'était...
magique.
Ouais, c'est un truc, t'es là, ça c'est génial, tu vois.
Ah ouais, ouais.
Surtout si tu dis, c'est un truc que tu vas peut-être plus pouvoir faire et que d'un seul coup, t'arrives à le refaire, tu vois. Que t'as un peu t'as un peu le doute, tu vois.
Il y a toujours le doute.
Ouais. Ouais. Donc toi, comment t'as géré? Est-ce que tu as eu de l'aide ou...
J'étais bien entourée.
Ouais.
Après, j'ai vu une hypnotiseuse.
D'accord.
Parce que liée à la blessure, j'avais beaucoup de choses qui me dérangeaient, auxquelles j'avais peur. Et je voulais préparer la reprise, finalement, pour qu'elle se passe le mieux possible. Donc elle m'a beaucoup, beaucoup aidée.
D'accord.
Et du coup, parce que souvent, en fait, quand on a un traumatisme, on a un sentiment qui va avec.
Ouais.
Et en fait, c'est ça qui engendre souvent des peurs, des angoisses et ce genre de choses. Donc du coup, ce qu'il faut arriver, c'est à revoir ce qui s'est passé, à revivre sans avoir de sentiments. Et si on arrive à faire ce genre de choses, du coup, ben, on n'a plus toute la suite qui va avec.
Ouais, c'est ça. Quand c'est surtout, moi, je sais que c'était pas lié à, c'était pas un accident que j'avais eu, c'était une usure progressive et tout ça. Mais quand c'est effectivement lié à soit une situation particulière, tu vois, et tout, bah, le jour où tu reprends et que tu te retrouves dans cette même situation,
Le corps, il veut pas.
Ouais, corps,
la tête,
il veut pas,
tout le monde dit stop.
Ouais.
Alerte rouge, on veut pas retourner là-dedans, on va se faire mal.
Et donc c'était sur quel... c'était sur un... Sur une brie, c'est ça, t'as
non,
dit
un non. double groupé. Alors en fait, j'avais fait le double tendu au milieu et j'avais refait un double groupé à la fin.
Double groupé, c'est comme c'est un salto...
C'est un double salto en position...
Fermée, quoi.
Voilà, fermée, on tient les genoux.
D'accord.
Alors que le double tendu, c'est on est tout plat, comme une feuille.
Et donc après la blessure, tu l'as refait combien de temps après t'être blessé, ce mouvement?
Alors, j'ai repris en septembre et j'ai dû le refaire en octobre. Sur le trampoline,
ouais.
On reprend petit
D'accord.
à petit. Et en fait, la première fois que j'ai dû refaire de groupé, donc j'avais une petite appréhension, mais
pas tant que ça.
Et en l'air, en fait, j'ai eu un espèce, comme un flash, comme si j'allais rouvrir de la même manière pour arriver sur la tête. Et en fait, mon cerveau tout de suite a dit, non, tu restes groupé, reste bien, maintiens, et tout va aller, quoi.
Et ça s'en est allé après
Et du coup, voilà, ça a été, et j'ai ressenti, ça m'a vraiment fait peur, mais en même temps un soulagement.
D'accord.
Et après, en fait, ça a été...
Après, tu as eu ce flash où ça peut revenir
Quand je suis fatiguée, je sens que je suis pas à l'aise, en fait, dans cet élément. Maintenant, on va dire que c'est pas un élément où je suis super... C'est plus mon meilleur ami. Mais je le refais sans problème. Mais voilà, j'ai toujours un petit truc qui me gêne.
D'accord.
Et du coup, j'ai eu aussi, en fait, finalement, ce que j'aurais jamais pensé, c'est qu'en fait, le double tendu que j'avais au milieu, lui aussi, finalement, il a été impacté.
D'accord.
Donc, quand j'ai dû le refaire, j'étais pas préparée, lui, à avoir un problème sur lui.
Ouais.
Parce que pour moi, c'est pas sur lui que je me suis blessée. Mais comme il faisait partie de la série, le cerveau l'a gardé.
D'accord. Ouais.
Et du coup, lui, quand j'ai dû le refaire, comme je m'étais pas préparée dessus, je comprenais pas, je voulais même pas passer. Quand mon entraîneur m'a dit, faut que tu fasses ça.
Ouais.
Et ben, j'étais là, ben non. Et je comprenais pas. Pourquoi je peux pas? Ben si, tu peux.
Ouais.
Et une angoisse pendant un quart d'heure, j'ai pas pu passer. Et après, j'ai compris, j'ai dit, mais peut-être que c'est parce que.
Ouais.
Et du coup, là, quand j'ai compris, j'ai dit, faut y aller, faut passer au-dessus, faut, comme on dit, on tombe à cheval, on remonte. Ben là, c'était ça. Fallait que j'y aille, sinon j'arrêtais le tumbling.
Donc t'as réussi toi-même, mentalement, à aller chercher le...
À comprendre ce qui s'était passé pour pouvoir passer au-dessus.
Et te mettre un coup de pied au cul, dire j'y vais.
Maintenant,
quoi.
Ça suffit.
Ouais, ça c'est bien.
Et du
c'est
coup,
la mentalité d'athlète de haut niveau, quoi.
Je sais pas, mais en tout cas, je me suis dit c'était ça où j'arrête et j'avais pas envie d'arrêter, donc fallait y aller.
Et après, t'as donc ta première échéance de compétition après
un championnat de France par équipe quelques temps après, mais c'était des séries simples par rapport au niveau que j'avais, donc du coup ça s'est super bien passé. On a fait championne de France donc par équipe, donc du coup j'avais les copines.
Donc t'as réussi à reprendre rapidement ton niveau, en fait.
Voilà, en fait en un an j'ai retrouvé mon niveau.
Seulement
là c'était trop simple. À une semaine, donc j'avais déjà loupé un championnat du monde puisque du coup j'étais blessée, et donc j'ai mis un an pour retrouver mon niveau. Et en fait, j'allais à une semaine des championnats du monde faire la sélection. J'étais prête, j'avais le niveau, tout était bon. Et ben non, je me fais une fracture de la cheville. Mauvaise réception et la fracture à la cheville. Et en plus, pas la banale où c'est 6 semaines. Normalement, une fracture, c'est à peu près 6 semaines pour que ça aille mieux. Et là, c'était une fracture du col de l'astragale, donc du talus plus exactement le nom de maintenant. Et en fait, c'est un os qui est très peu vascularisé. Et donc, qui met beaucoup de temps, en fait, à cicatriser. Donc, au lieu de 6 semaines, c'était 3 mois.
Ah oui.
Et sauf qu'il y a... Donc, je ratais les championnats du monde. Et il y avait les championnats d'Europe qui approchaient. Du coup, c'était en... Donc, en fait, en septembre, j'ai raté les championnats du monde de novembre. Et il y avait les championnats d'Europe en avril. Et là, je me suis dit, mais je vais pas tout rater encore. C'est pas possible.
Les championnats du monde, c'est tous les ans ou c'est...
Tous les ans, post-olympique, il n'y a pas de
D'accord.
championnat du monde.
Et alors, est-ce que c'est un hasard complet ou est-ce que c'est un contexte, encore une fois, de la fatigue
Peut-être aussi un stress de, je pense, lié au fait que j'avais raté un championnat du monde, que je m'étais blessée, que je voulais absolument revenir. Et je pense peut-être, voilà, indirectement, pas je l'ai provoqué, on va pas dire ça, mais une erreur qui était liée sûrement au stress. Ouais. Mauvaise gestion de ma part, je pense.
D'accord. Il n'y avait pas eu de... Parce que parfois, on a des blessures, on a un peu des signes avant-coureurs, mais on
ignore... La première, oui, celle du dos, ouais. J'aurais pu l'éviter. Ouais. L'éviter, on va dire. Oui, c'était lié à la fatigue. La deuxième, c'est voilà, parce que j'ai voulu... je tenais quelque chose absolument et...
Tu n'avais pas eu quelques petites douleurs déjà à cette cheville
rien.
Ouais.
C'est vraiment juste mauvaise réception parce que... Voilà, j'ai voulu faire absolument cet élément parce que c'est ça qui... C'était cette série qui allait me permettre de me qualifier.
Ouais.
Donc je voulais absolument la faire avant la compétition et j'ai fait... Voilà, je suis partie alors j'aurais pas dû et j'ai mal atterri et voilà quoi.
Et alors est-ce que tu les as fait les championnats d'Europe après ou pas?
Alors du coup... du coup c'était 3 mois d'arrêt, donc ça fait octobre, novembre, décembre. Donc j'ai pu reprendre début décembre. Les sélections étaient en février. Donc du coup je reprends tout doucement parce que je fais attention, il faut la rééducation, il faut pas aller trop vite parce que en plus c'est un os, voilà, si on va trop vite il risque de nécroser, si il nécrose c'est toute sa vie qu'on a mal à la cheville, donc c'est vraiment compliqué. Donc j'ai fait les choses correctement et petit à petit, et donc du coup après il y a eu les sélections et en fait c'était, il fallait faire 4 séries sur 4 réussies. D'accord. Parce que j'avais pas pu faire la première à cause de ma cheville qui était douloureuse, donc j'avais pu faire que la deuxième. Donc les autres filles avaient 8 séries à réussir 4.
Ouais.
Et moi j'avais 4 sur 4 à faire.
Ouais.
Donc j'ai pression. Déjà, pression. Matché contre les autres filles qui, elles, avaient un avantage finalement.
Ouais.
Et il n'y avait que 4 places. Et donc là j'ai réussi à bien me concentrer, à faire les choses correctement et à faire 4 sur 4. Et du coup j'étais la 4e note. Donc je rentrais tout juste dans l'équipe, mais je rentrais.
Et c'est ce qu'il fallait.
Voilà, donc là c'était mon retour en équipe de France. D'accord. Après toutes ces péripéties.
Et en fait, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que souvent, pour être en équipe de France, ils regardent les résultats sur ta saison.
Non, ils regardent. Il n'y a qu'une sélection. Quoi. Voilà, il y a deux sélections.
Peu importe ce que
tu
as fait, c'est que les
Sauf
deux sélections.
Si tu as eu de très bons résultats, tu peux avoir une sélection d'office, comme j'avais eu pour les Jeux mondiaux.
D'accord.
Parce qu'il n'y a qu'une Française qui part. Donc là, on est qualifié d'office pour les championnats du monde.
Il y a une seule Française.
Oui. Et c'est tous les 4 ans, comme les Jeux Olympiques, mais il n'y a qu'une seule Française et un Français.
Et toi, t'as fait deux fois les championnats du monde.
Jeux mondiaux.
Ah, Jeux mondiaux, pardon, oui.
Jeux mondiaux, j'ai fait une
jeux
fois.
Jeux mondiaux, c'est...
Comme les Jeux Olympiques.
D'accord.
Et les championnats
du
monde.
Ça, je connais pas bien, tu vois.
Ouais. Oui,
c'est la différence avec les Jeux Olympiques.
C'est peu médiatisé, mais c'est la même chose.
D'accord.
C'est tous les meilleurs, tous les 4 ans.
Il y a autant de pays.
Autant de pays, avec d'autres sports, donc on va être avec... Il y avait le rugby à 7 à l'époque, il y avait la pétanque, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, une partie de la GR, donc gymnastique rythmique, je ne sais plus. La danse, je crois que c'était danse acrobatique ou quelque chose comme ça. En fait, plein d'autres sports qu'on n'a pas aux Jeux Olympiques.
Ok. Et ça avait donné quoi donc
Et du coup, j'avais fait 5e.
5e.
5e, oui.
Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que t'as réussi à faire la meilleure performance que tu faisais? Les autres ont simplement été meilleurs que toi ou...
Non, j'aurais pu faire mieux. Normalement, je pouvais atteindre la 3e place.
Ouais.
Donc, c'était des petites erreurs. Et ce qui, après, c'est pour ça que j'ai pas eu beaucoup de vacances et que j'ai repris vite. Parce que pour le championnat du monde, je me suis dit peut-être que je peux faire quelque chose en fait, avant de me blesser. J'avais possibilité d'atteindre une médaille individuelle.
D'accord.
Donc, j'ai précipité les choses parce que j'avais un peu gardé...
Une amertume.
Par rapport à cette médaille que j'avais réellement ratée.
Ouais.
En fait.
D'accord.
J'avais l'opportunité et je ne l'ai pas saisie. Donc je m'en voulais. Donc ça aussi, ça n'a pas aidé, je pense, quand je me suis blessée au dos.
Et 26 ans, c'est que ça commence à être vieux ou pas dans le tumbling ou c'est quoi la moyenne d'âge?
Oui, en France. Oui, oui.
Ouais.
Je suis la plus vieille en France, fille, garçon mélangé.
Ah, t'es la jeune calmant du tumbling alors, en fait.
C'est un peu ça, tout le monde me dit que je suis la mamie, je me considère pas comme une mamie.
Non,
mais
26 ans, non, ça va.
Non, mais en tumbling, en France, souvent on arrête tôt parce qu'après avec les études et tout, c'est compliqué. Donc,
sur la scène internationale
sur la scène internationale, non, les Russes, la dernière, la Russe qui vient d'arrêter, la plus vieille, elle avait 34 ans.
Ah ouais.
Donc et là, toutes les Russes sont plus vieille que moi, donc je me dis, ça va.
Là, tu te sens jeune.
Voilà. Avec les étrangères, je me sens jeune. Avec les Françaises, un peu moins.
Et toi, tu prévois de faire ça combien de temps encore?
Alors là, j'aimerais bien les championnats du monde, donc là en novembre.
Ouais.
Et les championnats d'Europe en avril.
Mm-hmm.
Et après, je verrai.
D'accord.
Mais voilà, au moins, ces deux-là me donner à fond. Et après, je verrai.
Ouais. Ce que ça a donné.
Et où j'en suis, ouais. Le niveau. Enfin, voilà, plein de choses.
Parce que t'as réussi à faire donc, des études de kiné en parallèle.
Voilà, oui, ça a été très compliqué, ça aussi.
Donc ça, ouais, alors, il va falloir que tu m'expliques. Ça, j'ai pas bien compris. Il y a une. Comment dire, une sorte de formation à part pour les sportifs de haut niveau, c'est ça ?
Alors en fait, non, il y a une école de kiné en France à Saint-Maurice, en fait, qui permet aux sportifs de haut niveau de pouvoir s'entraîner en même temps. Donc en fait, au lieu de faire en 3 ans, on fait en 5 ans.
D'accord.
Donc c'est aménagé, on dédouble nos années, en fait, et ça nous permet de pouvoir voilà, vraiment continuer à s'entraîner. Parce que sinon, faire des études aussi difficiles en s'entraînant, ben, on arrête de s'entraîner.
Ouais, bah oui, tu peux
ou
pas
on arrête kiné, ce que c'est font ça, beaucoup
ouais.
aussi.
Ouais.
Parce que même en dédoublant, il y en a beaucoup qui arrêtent en sportif de faire kiné parce que c'est vraiment compliqué. Donc en fait, pour rentrer dans cette école en tant que sportif, on a une entrée en fait un peu, comment dire, une aide. Parce que pareil, c'est un concours. Donc pour rentrer, il faut travailler, il faut se rivaliser aux autres qui eux n'ont pas d'entraînement. Donc ça, c'est difficile. Donc on peut en fait rentrer par dossier. Et donc il y a un sportif à peu près par fédération qui a la possibilité de rentrer. Donc nous, on fait partie de la fédération de gym, donc il y a beaucoup de demandes. Et donc moi, j'ai fait la demande pendant 2 ans et je suis passée après les autres. Donc du coup, je n'ai jamais été prise. Donc j'ai dit, le seul moyen de rentrer, c'est par mes propres moyens.
Donc de suivre un cursus classique de kiné,
voilà.
En 3 ans.
Non, pour rentrer dans l'école.
Ah, pour rentrer dans
l'école. Pour rentrer dans l'école, passer le concours. Donc du coup, je suis passée par STAPS.
D'accord.
Et j'ai eu le même concours que les autres, sauf que voilà, moi, je m'entraînais 2 fois par jour. Donc ça a été une année très difficile. Pour pouvoir réussir ce concours, ils en prenaient 4 sur tout le cursus STAPS et j'étais 4e. Donc, encore une fois, c'est short, mais je suis rentrée en école
L'essentiel,
de kiné.
C'est le résultat.
Voilà, et une fois rentrée en école de kiné, là, j'ai eu les aménagements en 5 ans où j'ai pu m'entraîner.
D'accord.
Et en même
Donc
temps.
Toi, t'as fini.
J'ai eu mon diplôme.
T'as eu ton diplôme.
En 2017.
D'accord. Et donc, pour le moment, évidemment, c'est pas
bah,
trop possible
d'exercer. Je l'ai mis de côté, voilà.
Quoi.
J'ai mon diplôme, j'ai mon après-carrière, en quelque sorte. J'ai tout préparé. Mais là, je me suis dit, j'ai eu ma blessure, je me suis entraînée en même temps que mes études. Là, pour une fois, en fait, je peux m'entraîner correctement sans qu'il y ait de problème. J'en profite. Parce que là, je peux au moins... Alors que j'aurais pu essayer de travailler, mais ça aurait encore été compliqué. J'aurais pas pu progresser comme je veux.
Bah, oui.
Donc là, j'ai dit pour une fois, j'ai cette opportunité, je la saisis.
Bah, je pense que oui, si tu veux te donner ta chance à un maximum dans la compétition, c'est dur de faire les deux.
Ah
quoi.
Ouais, très compliqué. Oui.
Et ça t'a apporté quelque chose de niveau entraînement Est-ce que ça a modifié quelque chose dans ton entraînement, le fait de faire ces études, les connaissances que tu as pu avoir?
Pour mon dos, ça m'a beaucoup aidé.
Ouais,
pour ma rééducation,
ouais.
Bah oui, parce que j'étais en 2e année quand je me suis blessée. Donc ça m'a énormément aidé parce que j'ai pu me rééduquer un peu aussi moi-même, en fait, savoir quoi faire, comment, ne pas avoir peur sur certaines choses, trouver le kiné qui me correspondait parce que j'avais une certaine attente, parce que j'en ai fait plusieurs et ça ne correspondait pas.
Ouais.
Donc, non, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, au niveau du timing, après, quand j'ai des petites douleurs ou je sais quoi faire, voilà, j'ai...
Parce que les kinés, c'est vrai que... Bon, moi, j'en ai fait beaucoup aussi. Parce que moi, j'ai commencé les ostéos quand j'avais 15 ans et kiné tout ça, parce que j'avais fait une chute aussi au ski. Un peu le truc comme toi, ou dans le sens où j'ai fait une chute et je me suis retrouvé par terre et je bougeais plus, tu vois. Du coup, les gens, ils ont eu un peu peur.
Oui.
J'ai eu une minerve pendant 3 semaines, la tête qui était un peu sur le côté. Et du coup, ça m'a donné des problèmes cervicaux pendant pas mal d'années, qui reviennent souvent encore même aujourd'hui et tout ça. Mais... enfin, tu vois, je vois de quoi tu parles, ce sentiment de tu viens te prendre une chute. Alors moi, c'est pas que j'avais vraiment mal, mais j'étais un peu comme anesthésié et j'avais besoin de laissez-moi 5 minutes.
Que
j'ai pas perdu connaissance, mais ok, là, je viens de me prendre une méga chute, laissez-moi tranquille, tu vois. Mais bref, tout ça pour dire que c'est vrai que j'ai eu dans mon parcours des kinés parfois qui font pas vraiment leur taf, tu vois. C'est-à-dire que normalement, c'est masseur kinésithérapeute, donc il est quand même censé mettre les mains sur toi, quoi.
Oui.
Et moi, j'ai connu à une époque, je sais pas, aujourd'hui, j'en fréquente plus des comme ça, mais ça doit encore exister, qui te... Bah, ils te mettent... ils font les électrodes, un peu d'ultrasons. Moi, je sais que mon kiné actuel, lui, qui a fait beaucoup de formations aussi en thérapie manuelle complémentaire, il fait du dry needling, je sais pas si tu connais aussi ce que c'est. Ça, c'est avec les aiguilles, en fait, c'est les trigger points, je sais pas
ah
si
oui,
tu vois, mais avec des aiguilles.
D'accord, ok.
Et enfin, il a fait plein de choses intéressantes à côté de ça. Et lui, il me dit, les études sur les ultrasons montrent qu'en fait, ça ne sert simplement à rien, si ce n'est à mettre des belles... T'as des petites lumières sympas, ça clignote et tout, ça fait croire au client.
C'est-à-dire que j'ai fait quelque chose.
Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que moi, j'ai eu tellement, mais tellement de séances de kiné de électrode ultrason.
Ouais.
Allez, voilà, ça fait 10 séances, c'est bon. Ah ouais, mais ça va pas mieux. Ouais, bon, ça va passer.
Ouais, c'est compliqué.
Ouais, donc c'est vrai que d'avoir les connaissances, ça permet aussi
moi, j'ai une attente et de trouver le kiné qui me correspond.
Il va pas pouvoir t'enfler parce que tu sais de, de quoi il parle. Est-ce que tu veux.
Oui, puis après, il y a certains... Donc il y a des spécialisations, des formations, donc il y en a qui vont être plus à même à répondre à mon problème et d'autres pourront pas.
Bah
et inversement pour un autre problème. Donc ça, c'est vraiment, faut trouver le kiné et puis même un même kiné, si on a un autre problème, on l'a aimé sur ce problème-là, pourra pas répondre à notre problème. Donc faut vraiment aller voir des kinés, les essayer.
Ouais.
Et trouver le bon à chaque fois en fait.
Mais toi, l'avantage que tu auras après plus tard en tant que kiné, c'est que tu as été athlète. Et parce qu'il y a aussi des kinés qui savent, qui connaissent les exercices de rééducation, tout ça, mais après, en termes de programme réellement à te donner, c'est pas des coachs sportifs, tu
non,
vois.
Oui, voilà.
Et donc, toi, tu auras quasiment, si tu veux, les deux.
Un petit plus, en quelque sorte, par rapport à ça.
Tu sais ce que c'est, tu sais comment s'entraîner, ce qu'il faut faire et tout ça.
Parce que
donc,
voilà, entre la fin de la rééducation et le retour au sport, il y a une étape en fait de réathlétisation, en quelque sorte. Où il y a très très peu de kinés qui le font, donc c'est une formation aussi en plus, mais qui pour moi est très importante parce que sinon le patient est livré à lui-même, il retourne au sport en se disant c'est bon, je suis rééduqué, mais non, il y a une étape qui manque et qui du coup il peut se reblesser rapidement.
Mais c'est ça, mais ça c'est l'erreur commune de plein de sportifs, que ce soit de haut ou même des amateurs, de haut niveau des amateurs, c'est de vouloir reprendre trop vite quoi.
Oui, oui.
Mais
bah,
parce
qu'on a perdu du temps, alors on va aller vite.
C'est ça. Mais sauf que du coup, t'en perds encore plus parce que tu te reblesses.
C'est ça. Il faut prendre le temps de guérir, prendre le temps de se rééduquer, prendre le temps... Il faut être patient.
Ouais.
Vraiment, une blessure, il faut être patient.
Et t'as jamais eu d'autres blessures, de déchirures musculaires, de trucs comme ça?
J'ai eu des petits trucs, mais des entorses. Si, j'ai eu une petite déchirure au mollet.
Ouais.
Je me suis déboîté le doigt. J'ai eu une élongation à l'épaule.
D'accord.
Une entorse cervicale. Mais sinon,
dans l'ensemble, ça va, à part ça.
Enfin, moi, ça, c'est des détails, du coup, à côté de mon dos et ma cheville, je me dis, ça va.
Ouais, à côté
je les ai oubliés.
Ouais, à côté du reste.
En fait, c'est quand on me dit 3 semaines d'arrêt, ah, bon, ça va.
Ouais.
Tant qu'on me dit plus 1 an, ça va. Même ceux, je sais pas, où je vois des fois des tendons d'Achille, c'est horrible, mais je me dis, bon, c'est 6-9 mois. Ça va, mais 1 an, vraiment, c'est 12 mois, c'est énorme.
Bon, ouais. Bah, dans la carrière d'un athlète, oui,
c'est énorme.
C'est énorme maintenant,
ah ouais. Et puis c'est surtout les autres progressent quoi, pendant ces 1 an. Parce que 3 semaines, la personne, les concurrents, ils vont pas énormément progresser. En 1 an, c'est monstrueux.
Ouais. Bah, oui.
Donc du coup,
on
est largué total après.
Ah, ça, c'est dur. Et je me demandais, donc, est-ce que par exemple, quand tu es en équipe de France, est-ce que tu as un soutien, on va dire, financier ou pas d'être en équipe de France, est-ce que la fédération...
La fédération nous aide un petit peu.
Elle vous aide un petit peu.
Elle va payer nos compétitions internationales.
Ouais.
Et après, en fait, elle va nous aider, nous donner une petite bourse, en fait, pour payer la location de salle ou différentes choses, en fait.
D'accord.
Mais bon, après, pour de là pouvoir en vivre, c'est plus compliqué.
Donc, comment tu... depuis toutes ces années, comment tu gères ça? T'as peut-être ta famille qui t'aide, qui te soutient.
Il y a ma famille. Et du coup, j'ai aussi la maintenant ambassadrice de l'Essonne. Donc, mon département m'aide aussi.
J'ai parlé, parce que j'aimerais bien l'avoir sur le podcast. Normalement, elle m'a dit que c'était OK avec Alexandra Reka. Elle m'a dit, on est toutes les deux ambassadrices. Tout ça, donc,
de l'Essonne, tout à fait. Ouais. Donc là, c'est un nouveau dispositif.
D'accord.
Donc, on est 21 sportifs et en fait, on représente l'Essonne sur divers événements.
Okay.
Et donc, ils nous aident en contrepartie financièrement. Donc, ça, c'est vraiment super parce que nous, on peut apporter, on peut aller dans des écoles, partager notre expérience. On a fait le cross la dernière fois de l'UNSS.
Ouais.
Donc, c'est vraiment génial de pouvoir aider. Et en même temps, en fait, on a un retour financier pour nous, notre carrière.
Ouais.
Donc, ça, c'est vraiment super. Donc, il y a la fédération, le département. Et après, j'ai Footspring qui m'aide aussi financièrement en tant qu'ambassadrice.
Ok. Mais c'est pas suffisant.
Mais voilà, non, c'est pas suffisant parce qu'après, il faut payer tous les stages et les stages sont chers, surtout quand on va en Russie.
Ouais, donc par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, ça, un stage en Russie, ça va te revenir à combien?
Pour 10 jours, environ 2000 euros.
2000 euros.
Voilà, ouais.
Et t'as ton coach qui vient avec toi quand tu pars en stage?
Oui, voilà, ouais. Il y a le coach, donc du coup, c'est pareil, faut lui ouais. payer le stage parce qu'il ouais. va pas payer. Ouais. Donc voilà, du coup, ça monte facilement, voilà, 4-5 000 euros en stage. Et ouais. du coup, c'est compliqué, faut trouver les financements. Donc c'est, du coup, je me suis dit comment je vais pouvoir faire. Donc j'ai lancé Instagram, donc voilà, pour essayer de trouver des partenaires. Donc mm-hmm. C'est pour ça que j'ai trouvé Footspring.
Donc l'idée ouais, de la chaîne, enfin pas de la chaîne, je suis habitué pardon avec YouTube. L'idée de ton compte Insta, c'est au départ de trouver plus des partenaires.
Voilà, de partager ma passion voilà. Qui est le tumbling, partager mon expérience sur les blessures, sur ma vie en général en fait de sportive. Et ensuite du coup voilà de pouvoir trouver des partenaires pour m'aider. Ouais.
Donc au départ tu cherchais surtout des partenaires, des professionnels.
Oui.
Et puis c'est vrai que là, donc, ce que tu avais lancé, c'est une sorte donc, de campagne de soutien.
Oui, une sorte d'appel aux dons, un crowdfunding voilà. en fait. Du coup, j'ai carrément créé un site internet.
Ouais.
Et du coup, avec dessus une sorte de crowdfunding.
Ouais.
Pour voilà, si les gens ont envie de faire des dons pour m'aider en fait dans ma carrière. En échange, ils ont des contreparties, des petits cadeaux que ouais. je fais moi-même. Donc ça peut être, voilà, là j'ai fait un calendrier pour.
Bah, tu fais 2019. Plein de belles photos, donc ouais, le
voilà,
calendrier,
j'essaie voilà, de faire des calendriers, ouais. il y a des posters, des photos dédicacées, ce genre de choses en fait. Ou alors il y a même des dons sans contrepartie, si les gens ont juste envie d'aider sans qu'il y ait un cadeau en échange. Et du coup, tout cet argent voilà, va me permet de faire mes stages. Donc suivant combien je vais récolter, je vais voir combien je peux faire mes stages. Quoi.
D'accord, parce que j'avais cru voir que c'était quasiment de l'ordre de 30 000 euros par an, c'est ça?
20 000.
20 000, ouais. D'accord, j'étais un peu loin 000. Alors. D'accord. Il me semblait que j'étais
plus. Ouais, donc
c'est, près des 30 000.
C'est
okay.
Assez. Voilà. Donc j'ai mis tous les stages qui me permettraient vraiment d'être au top.
Ouais.
Donc après, bah, si je peux pas avoir tout, bah, je réduirai les stages.
Ok. Mais... Donc je mettrai moi le lien pour ceux que ça intéresse de soutenir Lauriane. C'est le site, c'est Lauriane Lemprin, c'est ça?
LaurianeLemprin.com, ouais.
.com. Ok. Mais je mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent. Et donc, ouais, il y a plusieurs moyens. J'ai vu que. Tu proposais aussi des séances d'entraînement avec toi,
voilà,
des choses comme ça et tout.
Pour apporter voilà, mon expérience, en même temps faire une séance de sport, et ça permet voilà, d'avoir moi un don en échange.
Tu pourrais,
il y a plein de sortes.
T'as pensé à faire par exemple aussi un programme d'entraînement
Il y a beaucoup beaucoup de demandes, donc j'y réfléchis. Ouais,
je pense que ça
pas,
peut intéresser, tu vois, parce que bon, on voit, voilà, t'es une athlète, t'as un physique d'athlète, donc je pense que, tu vois, là je t'ai posé des questions un peu sur ton entraînement, sur ton alimentation. Mais je pense qu'il y a plein de gens, bah notamment aussi des femmes, qui seraient intéressées par ton plan alimentaire détaillé peut-être, ou des recommandations. Et puis, ouais, je sais pas, programme pour les abdos, programme pour les jambes, tu vois,
ouais,
des choses comme ça.
Je commence à y réfléchir et là, je pense que je vais vraiment m'y mettre pour essayer de faire un truc, ouais, peut-être pas avant l'été, comme ça.
Bah oui.
Ça pourrait...
Ça, je pense que ça peut bien fonctionner. Et puis, tu vois, c'était pas... parce qu'il y en a qui font ça, mais... elles n'ont pas toujours la légitimité de le faire, ni le physique que tu as. Donc voilà, toi, tu es une vraie athlète de haut niveau. On ne peut rien dire sur ça. Tu as le physique d'une athlète. Donc bah, voilà, tes méthodes, on voit qu'elles fonctionnent. Quoi.
Ouais. Fonctionnent sur moi, en tout cas.
Voilà,
ça, elles
fonctionnent sur toi. Mais,
non, mais oui,
bien sûr
oui,
que ce n'est pas parce que ça fonctionne sur toi que ça fonctionnera sur tout le monde. Mais d'une manière générale...
Voilà, transmettre voilà, tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais...
Ouais. Donc ça peut être un truc intéressant, je pense, que tu peux mettre en place. Hein.
Bah ouais,
déjà, voilà, pour tous ceux qui veulent, je mettrai le lien vers ton compte Instagram aussi. Il y a vraiment plein de belles photos et tout.
Ça m'aiderait beaucoup.
Voilà. Donc, soutenez Lauriane parce que, voilà, c'est pas facile, c'est pas la seule hein, dans ce cas-là, mais
non.
En France, mais c'est pas que en France, mais la carrière d'une athlète de haut niveau, en plus dans un sport qui n'est pas le plus médiatisé, c'est vraiment quelque chose de difficile.
Compliqué.
Et voilà.
Il y a très peu d'aide, très peu de médiatisation. Bah, à partir du moment où il n'y a pas de médiatisation, il n'y a pas beaucoup d'argent finalement. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué et qu'on est obligé, si on veut continuer, de trouver des astuces. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui arrêtent rapidement parce qu'ils ne peuvent pas en fait.
Bah,
ils sont obligés de travailler.
Mais oui.
Donc ils arrêtent. Et c'est pour ça qu'on n'a pas énormément de sportifs.
Il
y a
peu de sports au final qui sont, même dans les sports médiatisés, en fait, c'est un tout petit pourcentage qui eux-mêmes sont médiatisés dans le sport qui est médiatisé, tu vois, donc c'est très très dur en tant que sportif pour ça, quand on dit athlète de haut niveau, on pense que c'est professionnel, mais c'est très dur d'être professionnel parce que professionnel, normalement, tu gagnes de l'argent, quoi.
Mmh, ouais.
Et là,
là, c'est juste voilà. pour payer ce qu'on
c'est
peut,
ça.
De quoi vivre.
Parce après, que les compétitions, tu gagnes une médaille, mais il n'y a aucune récompense financière, non ?
Dans championne de France, non ?
Ouais.
Zéro.
Tu vois, à la limite, tu vois, dans les sports de combat, quand t'es pro, tu combats quand même pour de l'argent, tu vois. En amateur, bon, théoriquement, il n'y a pas d'argent. Mais c'est vrai que toi, ça reste... Ça reste, c'est considéré comme encore de l'amateur parce que justement il n'y a pas d'argent.
Oui, il n'y a pas d'argent.
Mais t'es quand même professionnel. Quoi. C'est-à-dire que c'est ta vie, c'est ça. Quoi.
Oui, c'est ça. Oui, donc, c'est ça qui est un peu compliqué. Bah c'est qu'on est un peu l'entre-deux. Mais non, on ne peut pas. Enfin, il faut trouver des astuces pour pouvoir en vivre, quoi, vraiment.
Ouais.
Et pouvoir progresser parce que ce n'est pas le tout de faire du sport, mais il faut aussi qu'on progresse. Sinon, on ne fait pas du sport de haut niveau. Donc, si on veut devenir bien meilleur pour aller chercher des médailles internationales individuelles, il faut progresser, il faut se donner les moyens. Et donc, il faut trouver des astuces. Donc, voilà, moi, je me suis dit, allez, un site internet, je vais essayer.
Non, mais c'est bien, il est bien fait et tout. Moi, j'ai été regarder. C'est bien ce que tu as fait. C'est bien ce que tu as fait. Et a priori, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de calendriers qui ont été commandés.
Les gens ont vraiment participé et étaient heureux de pouvoir contribuer, en fait, à ma carrière, à mes performances, de pouvoir aider. J'ai vraiment eu de bons retours, donc vraiment, ça fait plaisir. Et puis, on sent un soutien, du coup, aussi.
Ça met un peu aussi un visage, parce que je crois, t'as quoi, 75 000, plus de
79 000.
Ouais, 79 000, bon, ça va vite. Quand j'avais regardé il y a quelques temps, je crois que t'étais à 75, mais ça va super vite, donc ça fait quand même du monde. Donc, c'est vrai que dans ce lot-là, il y a des gens, je vois les commentaires, que... Bah, tu les motives, tu les... Enfin, ils en retirent quelque chose, donc c'est vrai que pour moi, c'est un juste retour, tu vois, parce que, mine de rien, les photos que tu fais, tout ça, c'est des photos professionnelles, c'est du temps de passé, tu fais des stories, Insta et tout.
De faire pendant mon entraînement, et c'est souvent très compliqué, je peux pas tout filmer, mais j'essaie de faire des stories pour montrer un peu ma vie de sportive.
Ouais.
Donc c'est aussi contraignant. Des fois, c'est pour penser plus à quelle story je vais pouvoir faire pour... montrer, mais il faut aussi que je m'entraîne, donc mais voilà, donc c'est du temps,
c'est beaucoup de temps, hein, parce que moi Instagram j'ai un peu plus de mal, tu vois,
c'est pas évident,
ça prend du temps, justement, je trouve plus de temps, et donc non, c'est vraiment du super boulot, quoi, sur Insta, moi j'aime bien.
Merci.
C'est comme ça que, enfin non, c'est même pas comme ça que je suis tombé sur toi, c'est par Yovan,
ouais.
T'avais fait une photo avec lui, super coup de genou sauté, et puis il avait dit un commentaire, genre, c'est comme ça, quand t'es avec une athlète de haut niveau, tu lui montres un truc, elle le fait mieux que toi en 5 minutes. Du coup, je lui dis, c'est qui, tu vois, parce que pour moi, je croyais que t'étais une combattante, je me disais, je la connais pas, c'est qui, tout ça, et il me dit, non, c'est Lauriane, et tout ça. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de l'avoir sur le podcast. Et on aura mis quelques mois à y arriver.
Oui,
mais
on
a réussi à le faire. Et j'espère que les gens, ils auront apprécié un peu. Moi, c'est pour moi la première fois. J'ai des gens j'ai déjà eu des gens qui ont combattu à haut niveau, tout ça. Mais en dehors de ça, je suis content d'avoir eu quelqu'un comme ça qui est dans une équipe de France, dans un autre sport. Et puis, qui dédie sa vie... à son sport, quoi. Je trouve ça beau. Donc voilà. Écoute, je pense que ça va être bon pour aujourd'hui. Je te remercie d'être venu.
Merci. Et puis, de m'avoir invité.
J'espère que les autres ont passé un bon moment. Moi, j'ai passé un très bon moment.
Moi aussi.
Et puis, je mettrai tous les liens si vous voulez suivre Lauriane sur Internet. Comme ça, vous verrez un petit peu l'évolution de sa carrière aussi. Allez, merci.
Merci beaucoup.